Les podcasts d'Opost sont en libre accès et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur opost.fr.
On va lancer. Amis des galères du métro, amis du café, amis de la police, amis de la révolution permanente ou pas, eh bien, soyez les bienvenus. Voilà que Elsa Marcel se prépare. Prenez votre temps, le café coule, tout va très bien. Bonjour tout le monde, bonjour les oppostiens. Je vois qu'il y a déjà, et les oppostiennes, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Oh, vous pouvez, on n'est pas à BFM. Vous pouvez y aller, voilà, directement. Voilà, vous êtes passé devant la caméra, c'est parfait. Là, c'est parfait. Au milieu, c'est parfait. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour Elsa.
Désolé,
comment ça va?
Je suis en retard. Bah, ça va.
Moi, j'ai toujours appris que les révolutionnaires étaient toujours en avance.
Ça dépend lesquels. Nous, on a un petit peu de mal à commencer les réunions à l'heure, mais mais après, pour le reste, voilà, on est plutôt en avance. Sur les piquets de grève, on est les premiers.
Voilà. Et donc ici, ce n'est pas un piquet de grève.
Ouais.
C'est quoi?
Bah, je sais pas, c'est une émission.
C'est une convocation au poste. Vous êtes avocate, ouais. Et vous avez eu la drôle d'idée de venir avec votre téléphone. C'est ce qui est pas raisonnable. Normalement, quand on s'apprête à être entendu, on vient pas avec son téléphone. Non, c'est pas ce que vous apprenez à vos camarades.
Si, en partie, ouais. c'est mieux d'éviter.
Vous êtes ici pour cet ouvrage, et pas uniquement, mais beaucoup, beaucoup pour cet ouvrage, qui paraît ces jours-ci à La Fabrique, État de droit, ordre bourgeois, renoué avec la défense politique. Je rappelle que vous êtes élu, jeune élu de Saint-Denis.
Ben oui, contre toute attente. Qui l'eût cru?
Qui l'eût cru? Vous avez fait 7%.
Oui, exactement, à peu près.
Comment vous avez fait 7%?
Bah, bonne question. En fait, je suis pas toute seule à être élue. Il y a Dorian Gontier, on est deux élus. Donc, on a un groupe d'opposition, un groupe Révolution Permanente au conseil municipal à Saint-Denis et Pierrefitte. Bah, il faut croire qu'on a fait une bonne campagne. Et aussi qu'il y a des phénomènes politiques profonds dans la ville et je pense ailleurs, qui fait qu'il y a un espace pour un projet politique de transformation radicale de la société qui a son centre de gravité dans les luttes. Et on est très contents. On voyait qu'on avait un très bon écho. On ne savait pas si ça allait se traduire électoralement. Mais au final, on a fait le meilleur score de l'histoire de l'extrême-gauche dans la ville. Donc,
et alors, très contents. Il y a ceux que vous appelez les modérés qui sont plus de 45, je crois, hein, dans le conseil municipal. Il y a combien de LFI?
Je ne sais pas si je les appelle les modérés, mais...
Certains de votre acte, si.
Modérés? Ouais, ça veut tout et rien dire. Modérés, moi, je ne dirais pas ça. Mais ils sont... il faut calculer combien ils sont. Nous, on est deux, le PS, ils sont 10. Donc, mettons, et eux, du coup, ils doivent être quoi? 40. Oui, c'est ça, 47.
Ouais, je crois.
PC et LFI.
Ils sont 40. Il y a 47 sièges et LFI. On parlera tout à l'heure de la question de la police municipale, parce qu'à Saint-Denis, elle était quand même particulièrement cow-boy.
Exactement.
On en parlera tout à l'heure. Je vous présente rapidement. Vous êtes également avocate au barreau de Saint-Denis.
Saint-Denis.
Comment?
Seine-Saint-Denis,
pardon. Bobigny. Porte-voix de Révolution Permanente depuis... vous êtes membre depuis 2014 et porte-parole depuis quand?
Je sais pas, il n'y a pas de date. Hein. Je suis une des personnes, un des visages connus, on va dire, mais c'est pas un titre officiel, donc je pourrais pas le dater.
Et vous, donc, publiez ces jours-ci à La Fabrique, belle maison, le livre que j'ai présenté, État de droit, ordre bourgeois, un essai qui s'attaque à une des croyances les mieux partagées de la gauche, que l'État de droit serait un bouclier contre l'arbitraire. Pour vous, c'est l'inverse, l'État de droit est le cadre juridique dans lequel se reproduit la domination de classe. Est-ce que j'ai bien résumé?
Ouais.
Après, vous allez voir, j'ai corné presque toutes les pages. Donc voilà, vous avez un peu de temps.
Oui, parfait. Bah, je suis là pour ça.
Impeccable. La réponse majoritaire des organisations de la gauche judiciaire, écrivez-vous, page 8, et des avocats engagés dans la défense des libertés, consiste à invoquer l'état de droit, à exhorter le régime à respecter ses propres règles. C'est une posture compréhensible, écrivez-vous, mais vouée à l'impuissance.
Oui.
Explication de texte.
Alors, en fait, peut-être que pour commencer, je peux dire pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'écrire ce livre et que ça permet d'expliquer un peu la démarche qui est la mienne là-dedans. Mais c'est effectivement de voir qu'on est un certain... En fait, je pense que toute la gauche, tous les défenseurs des libertés, évidemment tous les avocats qui font ce métier parce qu'ils ont envie de défendre les exilés, les victimes de violences policières, les travailleurs, les précaires, sont d'accord pour dire qu'il y a une offensive autoritaire depuis au moins 10 ans. Ça commence, moi, voilà, vous l'avez dit, j'ai commencé à militer en 2014, donc moi, je suis la génération Rémi Fraisse, les premières manifestations interdites de solidarité avec Gaza en 2014, l'état d'urgence, donc la première confrontation à un parti socialiste autoritaire, en fait, les 49-3, les coups de matraque, la loi travail, etc. Et donc, je pense que c'est un constat ultra partagé où il y a, allez, à minima, une loi répressive par an depuis 10 ans, si ce n'est plus certaines années. De voir que ça génère, évidemment, un sentiment d'impuissance, c'est quand on est avocat, on y est confronté de manière spécifique, parce qu'en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'ils nous laissent jouer à la justice. Donc, on a toujours le droit d'avoir des avocats, de déposer des recours, de se plaindre, voilà, mais pour des objectifs de plus en plus formels et de plus en plus artificiels, et je donne des exemples dans différents domaines, mais par exemple, en droit des étrangers, aujourd'hui, depuis la dématérialisation de la procédure liée au Covid, il faut faire des recours pour avoir accès à un guichet dans une préfecture. Donc en fait, si vous êtes étranger et que vous avez besoin de régulariser votre titre de séjour, c'est même pas que vous allez devoir demander un avocat pour ça, vous allez devoir le faire aussi, mais avant tout, vous allez peut-être devoir payer un avocat pour qu'il vous fasse un référé, pour qu'il vous obtienne un rendez-vous dans une préfecture. Donc en fait, ça a la forme du droit, mais le contenu est de plus en plus léger, de plus en plus artificiel, et ce que je dis, c'est que pour faire face à cette réalité, la majorité des organisations de gauche, que ce soit sur le terrain syndical ou politique, et ça se traduit au sein de la gauche judiciaire, donc des avocats de gauche, des juristes de gauche, etc., ils ont la position des avocats, des publications d'avocats, de confrères avec lesquels je me retrouve dans les luttes et dans les prétoires, mais dont je ne partage pas la manière d'aborder le problème. Leur position, ça va être de supplier le régime qui respecte ses propres règles et de dire « Mais regardez, nous, dans notre constitution, il y a marqué la séparation des pouvoirs, il y a marqué le principe d'égalité devant la loi, il y a marqué le respect du principe du contradictoire. Pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas ? » Et d'interpeller différentes institutions du régime, un coup les magistrats, un coup Macron, un coup qui veut l'entendre, pour dire vous violez vos propres règles et à formuler des injonctions en fait un peu vaines à les respecter. Alors que moi je dis que précisément cette situation de crise, c'est l'occasion de regarder en face le visage autoritaire des démocraties libérales et impérialistes, et précisément de renouer avec la richesse de la tradition marxiste du droit qui a permis de construire des affrontements beaucoup plus à la hauteur.
Vous n'êtes pas dans un meeting là.
Ah pardon, bah, il faut me couper. Hein. Moi, il faut me couper.
Calmos, on a le temps. On a le temps, tout va bien. Okay, j'ai oublié de vous présenter le chat qui a des questions et des remarques à vous faire. Je vous rappelle de rajouter le petit Q devant pour que je puisse remonter les questions plus facilement. Alors, on va parler effectivement de la grande tradition dans laquelle vous aimeriez qu'on s'inscrive, les avocats du FLN, notamment Jacques Vergès, Gisèle Halimi, les défenseurs de 68, Marx lui-même, Rosa Luxembourg, Lénine, qui, pour le dire très vite, mais on va y venir tranquillement après, n'ont finalement pas joué le jeu de la justice. Et là, ce que vous reprochez à vos petits camarades de prétoire, c'est de jouer le jeu de la justice, c'est ça ?
Oui, je ne sais pas si je joue le jeu de la justice, c'est un peu dur comme constat. Je pense qu'il y en a plein qui cherchent en tout cas, faire face aux aspects les plus autoritaires de l'institution et qui défendent de bon cœur. Mais pour moi, ils le font avec une perspective stratégique finale qui est vaine, puisque en fait, leur objectif, de manière générale, ce n'est pas du tout de penser la transformation radicale de la société. Or, moi, la justice, de mon point de vue, c'est que l'expression, à un moment donné, d'affrontement qui existe entre les classes et qui s'exprime de façon plus ou moins aiguë en fonction de l'état de crise du capitalisme. Et eux, leur espoir, c'est de dire un jour, on aura peut-être un retour à une justice plus démocratique, un retour à la normale, un retour à des principes un peu sacrés et fondateurs de la démocratie libérale. Or, moi, je dis ça n'arrivera pas. Et ce qu'il faut, au contraire, c'est prendre acte de la situation dans laquelle on est et de construire un rapport de force qui nous permet de nous y affronter. Effectivement, c'est ce qu'on fait. Différents militants révolutionnaires, chacun depuis leur tradition, puisque j'essaye aussi de dire que la défense politique, c'est pas cette marotte d'avocat. Vous avez dans n'importe quel ordre ou dans n'importe quelle école de formation à la profession des salles qui vont s'appeler Vergès ou Henri Leclerc. Moi, j'essaye de dire, avant d'être une pratique d'avocat, même si certains avocats l'ont mis en œuvre et je le revendique, mais avant d'être une pratique d'avocat, c'est surtout l'enjeu d'un rapport politique à la justice et de la compréhension que c'est pas un outil neutre, c'est pas une institution indépendante, mais c'est au contraire un outil de gestion du rapport de force entre les classes. Et Marx, évidemment, le premier l'a démontré et l'a pratiqué dans les tribunaux, mais c'est pas le seul. seul. Et il y a toute une tradition extrêmement riche de gens qui, non seulement se sont défendus dans les tribunaux en partant de cette position défensive pour contre-attaquer, mais beaucoup plus que ça, qui ont cherché par tous les moyens à démonter les mythes en fait, que cette institution elle inspire auprès de la majorité de la population en faisant des tribunaux populaires, etc. Quoi.
Vous dites même que la justice, en fait, elle n'est pas le problème de la police, mais elle est bien le soutien numéro un de la police. Vous le dites autrement, vous dites, une fois que le régime s'est mis à nu, donc par exemple par les violences policières dont on va évidemment pas mal parler ce matin, une fois que le régime s'est mis à nu et assume sa nature fondamentalement répressive, il a plus que jamais besoin du sceau d'une autorité judiciaire pour se légitimer.
Bah oui, j'essaie de discuter. En fait, ça peut paraître contre-intuitif parce que précisément, les grands principes de la démocratie libérale, c'est ce à quoi on est biberonné, que ce soit évidemment comme avocat, mais beaucoup plus généralement, enfin, de toute la génération qui est née dans les années 90, à l'avènement de l'ère néolibérale, où on nous explique que la démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes, la lutte des classes est terminée, et en fait, on est presque vers la fin de l'histoire, et il y a un ordre mondial réconcilié. On est biberonné à ça. Et c'est contre-intuitif, en réalité, de voir, et j'essaie de prendre des exemples concrets, la phrase que vous citer là, elle relève d'une expérience que j'ai faite quand j'ai défendu le mouvement des jeunes Kanaks en France au moment où Macron, enfin le gouvernement a fait interdire TikTok en Kanaki en 2024, au
Absolument.
Moment des grands moments insurrectionnels contre le gel du corps électoral. Et j'essaye de prendre cet exemple concret parce qu'on voit bien le débat qu'on a eu entre différents avocats, c'est-à-dire qu'ils ont interdit TikTok, donc c'était le pays à le faire après l'Inde, la Somalie et l'Afghanistan après l'arrivée des talibans, donc, quatrième c'était la France. À partir de là,
c'est dire le palmarès.
Ouais, exactement. Ça donne une petite idée. Donc, on voit aussi que il y a beaucoup plus de continuité entre autorité et démocratie que ce qu'on veut nous faire croire. Le débat qu'on avait avec des confrères, c'est que cet arrêté, il avait été pris sur un fondement illégal puisqu'il avait été pris sur le fondement de l'état d'urgence. Je rentre pas dans les détails, mais ils avaient dit OK, état d'urgence, bim, je prends cet arrêté, j'interdis TikTok. Or, la loi sur l'état d'urgence, alors qu'elle permet déjà beaucoup, beaucoup de choses, ne permet pas d'interdire un moyen de communication en ligne, sauf si c'est une situation liée à de l'apologie du terrorisme. Or, en Kanaky, il y avait une insurrection, il y avait effectivement des images de révolte qui circulaient, mais il n'y avait pas de terrorisme. Enfin, je veux dire, là, c'était un petit peu trop. Et du coup, on avait un débat avec plein de confrères, il y avait la LDH, il y avait plein de... On était plusieurs, qui disaient « Regarde, l'arrêté, il est illégal. C'est faux, il est pris sur un mauvais fondement. » Donc, en fait, on n'a pas besoin de plaider des grands principes politiques, d'expliquer que c'est l'expression d'une autorité coloniale, etc., puisque de toute façon, on a raison. Il n'y a pas besoin de braquer les juges. On s'en tient au dispositif et à une défense légale et on ne peut que gagner.
Rappelez et moi, je disais à l'invité l'inverse. Qu'elle est au poste et que le temps existe aussi. Elle pourrait mieux respirer, parler moins vite.
Pardon, il y a marqué ça?
Oui, il y a marqué ça, ouais.
Je vois c'est pas, moi. Mais j'ai pas des bons yeux, en fait. J'arrive pas
c'est
à voir,
pas
c'est
grave,
trop loin.
C'est pas grave,
pardon,
je vous dis.
Ok, je parle moins vite.
Il faut respirer.
Ok, je respire. Et moi, je disais l'inverse. Je disais, mais non, mais c'est l'inverse. C'est précisément parce que le régime est allé aussi loin, en fait, dans une décision à ce point répressive, jamais vous allez avoir un rapporteur de Conseil d'État qui va donner raison à la jeunesse insurgée Kanak contre Emmanuel Macron, et qu'au contraire, plus que jamais, ils vont avoir besoin d'une décision juridique qui va mettre en forme ce bordel pour donner l'impression que tout ça est tout à fait normal et tout ça est tout à fait démocratique.
Et alors, qui a gagné?
Et bien, évidemment, l'État a gagné, sans surprise. Et ils trouvent toujours, et c'est ça que j'essaye de montrer, c'est que je montre que c'est la raison pour laquelle je critique le concept d'État de droit. Je dis, le régime, il a toujours la possibilité de s'auto-amender pour répondre aux crises qu'il produit lui-même. Et donc, dans un même dispositif, c'est-à-dire si vous prenez la Constitution, c'est à la fois le texte qui proclame des grands principes et des grandes libertés fondamentales, mais c'est aussi celui qui prévoit la possibilité de les dépasser à chaque situation exceptionnelle, comme ils disent. Ils ont fini par donner raison à l'État sur le fondement des circonstances exceptionnelles, qui est une théorie de droit administratif ultra floue qui permet à l'État de faire à peu près n'importe quoi s'il a besoin de se défendre face à une crise. Voilà, je m'arrête. Comme ça, je respecte la DA de Au Poste.
Ah non, non, mais c'est un peu drôle. Après, il y a Jean Macquart qui dit tant mieux, elle va dire plus de choses. Non, non, vous faites comme vous voulez.
J'ai l'habitude de
rire. Je vous dis juste, voilà. D'autres me disent, mais laissez-la tranquille. Enfin, je pense que Elsa est tranquille. Mais
je suis très tranquille.
Vous pensez pas que les deux sont possibles? À la fois une défense de procédure, ce que vous appelez d'ailleurs d'ailleurs, les avocats se retrouvent à manier des notions purement formelles, dépourvues de véritables forces contraignantes, ça c'est page 35. Le pouvoir nous laisse déposer des recours, plaider devant les tribunaux, bah, là c'était devant le Conseil d'État, mais c'est pareil, mais pour des résultats de plus en plus faibles et symboliques, un rendez-vous en préfecture, la confirmation du caractère illégal d'une décision qui s'applique déjà, on a vu beaucoup ça dans les, à propos des manifestations.
Exactement.
Par exemple, une indemnisation réduite, etc. Mais vous ne pensez pas que les deux sont possibles, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une défense de petits pas, avec quand même des tribunaux administratifs qui condamnent régulièrement, parfois après coup, mais parfois avant, des décisions préfectorales, donc de l'État, et puis une vision qui est la vôtre, qui embrasserait beaucoup plus le grand chemin de la révolution. Les deux ne sont pas possibles ?
Si, moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je pense qu'évidemment, la réalité c'est qu'il faut se saisir de toutes les brèches qui existent, et moi je ne mets pas un trait d'égalité entre tous les régimes, c'est-à-dire qu'évidemment il y a une question de degré dans la manière dont les dispositifs sécuritaires et autoritaires permettent ou pas d'avoir accès à un certain nombre de conquêtes. Mais le problème, c'est de comprendre plusieurs choses. Déjà, de voir que, pour moi, la limite, c'est si on prend l'institution judiciaire comme une fin en soi, et qu'on ne comprend pas qu'il faut l'articuler à une perspective politique plus grande, puisque le problème, c'est que c'est tout à fait possible d'obtenir des victoires. D'ailleurs, j'en ai, et tous mes confrères et consoeurs en ont un certain nombre, mais que c'est souvent une goutte d'eau dans un océan de défaites, et que ça, c'est objectif. Dans toutes les matières que vous défendez, si vous défendez des victimes de violences policières, des travailleurs et des travailleuses, des précaires, des exilés, vous pouvez gagner une fois pour perdre 10. Donc le problème, c'est est-ce qu'on se satisfait de la victoire qu'on obtient ? Moi, je ne pense pas. Et qu'il faut se rendre compte qu'en réalité, par rapport au niveau de crise de la démocratie libérale qu'on décrit, il faut penser une combinaison entre un usage tactique des institutions dans la mesure où elles permettent d'affaiblir le régime. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'à partir de chaque procès, de chaque occasion et même de chaque déferment en comparution immédiate, on peut mettre à nu en fait ce qui est réellement en train de se passer avec une perspective de transformation sociale d'ensemble qui permet en réalité de s'affronter aux racines du projet social, économique et politique qui produit cette offensive autoritaire. Et ce que moi j'essaye de dire dans le livre, c'est pas qu'il n'y a pas de menace urgente et immédiate, au contraire il y en a, mais que précisément cette menace, parce qu'elle est réelle, on ne peut pas s'y affronter avec des grandes abstractions. On a besoin de construire un rapport de force qui arrive au soutien en fait, de tout un tas d'initiatives qu'on peut mener dans les tribunaux, mais que si elles se suffisent à elles-mêmes, sont condamnées à l'échec. Pour le coup, j'en suis convaincue.
Alors ça, c'est la dernière partie du bouquin, donc la deuxième de l'émission. Mais restons dans si vous voulez bien, restons... Ah, vous avez un peu d'eau, au fait, et du café. Hein,
ah, oui,
voilà.
Vrai,
ouais, n'oubliez pas le kawa. Je continue parce que le chat me demande de vous demander ce que vous allez entendre par état de droit. Alors, je vais éventuellement vous aider déjà par un contre-exemple. C'est par le sieur Retailleau, Bruno de son prénom, dont vous rappelez page 41, qu'il a affirmé que, ouvrez les guillemets, rappelez-vous si vous vous en rappelez, et si vous découvrez, vous allez voir, c'est quand même monstrueux. Le type, à l'époque, était quand même ministre...
c'est clair.
Je ne sais plus de quoi, mais enfin, il était
l'intérieur.
Ministre de l'Intérieur, déjà, oui, c'est ça. Il affirme que l'état de droit n'est ni sacré, ni intangible, et là, vous ajoutez, il ne fait au fond que parler la langue de Carl Schmitt pour tenter de répondre à la crise que traverse le capitalisme français. Alors, Carl Schmitt, on va en parler juste après, mais d'abord, l'état de droit, pour vous, avocate, révolutionnaire, je mets à la fois une virgule entre les deux et pas de virgule, donc avocate, oui. Révolutionnaire, avocate révolutionnaire. C'est quoi l'état de droit ?
Pour moi, l'état de droit, c'est le nom que le régime donne à lui-même et c'est le récit qu'il construit sur lui-même. Dit comme ça, c'est un peu abstrait, mais en gros, l'état de droit, c'est la marotte et les grands principes auxquels on est biberonné dès nos cours d'éducation civique et ensuite à peu près dans toutes les étapes de la formation scolaire, universitaire et évidemment de la formation juridique. C'est les grands principes de la démocratie libérale qui, par exemple, consacrent le principe de séparation des pouvoirs, le principe du contradictoire, l'égalité devant la loi, qui sont consacrés par les textes fondamentaux qui constituent notre corpus juridique et qui, au fond, postulent l'idée selon laquelle la puissance publique serait soumise à des normes juridiques, à ce que Carl Schmitt, on y reviendra, appelle un état parlementaire parce que c'est plus précis, et qu'en fait c'est une espèce d'équilibre institutionnel qui est le fondement théorique des démocraties libérales et qui serait censé garantir les libertés individuelles contre l'arbitraire du pouvoir, quoi. Mais c'est avant tout pour moi le récit que l'État a construit sur lui-même. Et qui sert à produire du consentement auprès des classes populaires et de la majorité dominée, quoi.
Alors, vous parliez de textes fondateurs. Vous évoquez à cet égard, page 44, la Ve République française. Alors, c'est important parce qu'il y a un petit truc qui va se passer l'année prochaine. Vous faites le jeu des élections. Je ne sais pas si vous aurez un candidat ou une candidate. Je ne vous le demande pas. On n'est pas là pour faire la course des petits chevaux. Mais bon, a priori, vous inscrivez quand même dans ce jeu-là, celui d'une démocratie élective. Or, pourtant, vous expliquez très bien combien la Ve République est une démocratie, pour le dire vite, de façade.
Alors, sur la question des élections, et après pour parler plus de la cinquième, nous, on a une autre logique, c'est-à-dire que nous, on s'inscrit plus dans la tradition de la gauche révolutionnaire qui existe en France, que ce soit celle de lutte ouvrière, de la LCR, et voilà, des organisations, on va dire, du NPA, aujourd'hui, même s'il est divisé, etc., mais des organisations, et puis de révolution permanente, évidemment, qui considèrent que la transformation sociale, elle passera pas par le biais des institutions. Néanmoins, quand on se présente aux élections, comme on l'a fait à Saint-Denis, comme on l'a fait aux législatives avec Anas, comme on le fera probablement aux présidentielles, c'est pas tant pour dire aux gens, votez pour nous, on s'occupera du reste et on va transformer la société à partir des conquêtes électorales. C'est pour avoir une tribune pour défendre nos idées dans un contexte où, évidemment, on est encore au stade où l'immense majorité de la population, et encore, c'est à débattre quand on voit le taux d'abstention, mais... accorde une importance politique à ces rendez-vous-là, et nous, ça nous permet au contraire de visibiliser une alternative, et jamais vous nous verrez dire si vous votez pour nous, on s'occupera de transformer la société. On se sert de ces moments-là pour dire autre chose, et précisément pour renforcer la gauche révolutionnaire, la gauche indépendante, et construire un projet indépendant des institutions, du patronat, et qui défend la nécessité d'une transformation révolutionnaire de la société. Et effectivement, sur la Ve République, c'est un bon exemple de comment est-ce que parler d'état de droit sous la cinquième, c'est encore plus absurde que ça peut l'être dans d'autres démocraties libérales. Et c'est du coup un bon outil pour justement montrer le caractère un peu formel et artificiel de ces grands principes. Parce que la Ve République, et il y a même le Financial Times qui le disait comme ça pendant la réforme des retraites, qui disait en fait le président de la cinquième, c'est ce qui ressemble le plus à un dictateur élu dans une démocratie occidentale. Et en fait, la cinquième, c'est vraiment le régime qui a inspiré même la constitution russe, qui est fondée sur une toute puissance présidentielle et qui n'est pas juste une lubie de Gaulle, mais qui répondait à un besoin de direction dans un contexte de crise très importante de la gouvernabilité, puisque c'était au moment de l'indépendance de l'Algérie, c'était au moment où il y avait besoin, en fait, pour l'impérialisme français, d'organiser la transition entre la colonisation du continent africain et la France-Afrique qu'on connaît aujourd'hui. Donc pour ça, il y a besoin. Et là où, effectivement, je pense qu'on pourrait reprendre les termes de Carl Schmitt, qui faisait un discours au patronat allemand dans les années 30, de dire il faut un État fort et une économie saine. Et en fait, il y a besoin d'une forte concentration des pouvoirs politiques pour imposer un régime qui a économiquement des politiques très agressives contre les travailleurs et les travailleuses et qui, face à une situation de crise du capitalisme et de crise gouvernabilité des classes dominantes, a besoin d'outils répressifs pour maintenir son pouvoir et accuser en fait les soubresauts de la lutte des classes, quoi, accuser le coup des soubresauts de la lutte des classes. Et c'est pour ça que dans la Ve République, vous avez à la fois une constitution qui consacre la toute-puissance du président, c'est pour ça que vous avez le 49-3, c'est pour ça que vous avez l'état d'urgence, qui est quand même l'expression la plus claire de la capacité du régime à s'auto-amender et à détruire ses propres règles quand il a besoin tout simplement d'imposer la raison d'État contre la contestation. Vous avez le Conseil constitutionnel, où la plus grande arnaque du siècle, c'est de nous faire croire que c'est le garant des libertés, alors que ça n'a jamais été ça.
On va y venir au Conseil constitutionnel, parce que c'est parmi les je trouve, les pages les plus convaincantes du bouquin. Mais là, j'essaie de vous comprendre. Vous nous dites à la fois que la Ve République, ça va pas, mais vous jouez le jeu. Vous nous dites la justice, ça va pas, mais malgré tout, en tant qu'avocate, vous jouez le jeu. Donc, comment vous faites par rapport... On est tous dans nos contradictions. Je ne vous juge pas en vous disant ça. J'essaie simplement de comprendre et d'essayer de nourrir le débat public avec ça. Comment on fait avec ses propres contradictions ?
Pour moi, c'est pas une contradiction. En fait, ce n'en est pas une parce que, si vous voulez, même quand on regarde les traditions de défense politique qui ont existé, en fait, il y a deux positions. Sinon, il y aurait deux positions. Nous, on en a une autre, une troisième. Enfin, en tout cas, j'essaie d'en développer une troisième. Il y a soit une position d'adaptation totale, de dire en réalité, avoir ça, c'est moins que c'est toujours ça. Donc, c'est mieux, en fait, d'essayer de prendre ce qu'on a à prendre dans la justice et d'expliquer que malgré tout, ça reste un pouvoir indépendant et que c'est comme ça que ça pourra nous être utile et, en gros, de continuer à alimenter ces mythes en espérant qu'un jour, ils se réalisent. Et vous avez une autre position qui pourrait être une position dans ce cas de boycott. De dire la justice c'est un outil de répression d'État, c'est un outil de répression des classes populaires, il n'y a rien à en tirer donc je ne m'en occupe pas. Moi j'essaye de dire que le problème de cette deuxième position, qui celle qui en fait avec laquelle on pourrait être plus d'accord sur le constat on va dire, le problème de cette deuxième position c'est qu'elle abandonne les masses à leurs illusions et qu'elle n'a pas de politique pour essayer de les faire rompre avec l'autorité démocratique qu'ont ces institutions parce qu'évidemment l'État c'est non seulement un appareil répressif mais c'est aussi un appareil à générer du consentement, donc je veux dire ça produit des mythes sur lui-même et ça entretient l'idée pour des millions de personnes qu'en réalité, c'est en saisissant la justice qu'on pourra obtenir gain de cause face à un meurtre policier. Mais le problème, c'est que face à ça, moi, je pense qu'il faut accompagner l'expérience concrète des gens vis-à-vis de ces institutions, parce que ça se pose de manière permanente. Et on pourra redire ça sur le terrain des élections, mais par exemple, sur la question judiciaire, déjà, il y a plein de moments où on ne choisit pas d'être confronté à la justice. L'exemple le plus simple, c'est quand on est militant politique, qu'on est réprimé. A priori, on ne choisit pas, on va se retrouver dans un prétoire, on va devoir se défendre et on va devoir produire un discours sur cette question-là. Donc à partir de là, la question, c'est non seulement comment cette arène-là, ça devient la tribune la plus large possible pour nos idées, donc ça c'est un premier aspect qui est celui évidemment de Marx, de Rosa, Luxembourg, de Lénine et de tous les autres qui se saisissent d'une position défensive qu'ils n'ont pas choisie pour passer à l'offensive et donner la publicité la plus importante à la cause qu'ils défendent, mais c'est pas que ça, ils se servent aussi de cette occasion pour affaiblir l'institution en elle-même. C'est un double mouvement, c'est-à-dire pour démontrer en quoi est-ce que, contrairement à ce que tout le monde croit, la justice c'est pas un espace neutre où se tranche de manière indépendante des conflits entre des gens, mais c'est un outil de répression du pouvoir et ils en font Absolument. La démonstration. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut combiner un usage tactique.
Mais là vous ne répondez pas à ma question sur la contradiction.
Mais ça n'est pas une contradiction puisque la réalité c'est que précisément en ayant cette pratique-là qui articule un usage tactique et immédiat de ces institutions, mais articuler une dénonciation plus globale de leur rôle dans le système, du pouvoir concret qu'ils jouent, c'est comme ça qu'on les affaiblit in fine. Pour moi, ça va exactement dans le même sens. Il y a des exemples concrets, par exemple, je regarde sur la question des violences policières, un exemple que je développe beaucoup dans le bouquin, où je dis, quand on regarde le rôle qu'a joué le comité Adama dans la visibilisation de la lutte contre les violences policières, dans la dénonciation des crimes policiers, pour moi, c'est très intéressant, et je cite même à ça un moment, qui dans son livre dit, par exemple, quelque chose de très fort sur l'État, à partir d'une expérience partielle et on va dire individuelle d'un meurtre policier qui est celui de son frère, elle dit, je la paraphrase parce que j'ai pas la phrase exactement en tête, mais elle dit en réalité avec nos impôts l'État paye les policiers, les juges, les procureurs qui nous font la guerre. Et par là, non seulement elle parle de sa situation individuelle, mais elle arrive à démontrer ce que c'est que le rôle de l'État, non seulement de la police qui est sa version la plus violente au sens strict, mais derrière elle de la justice et derrière elle de l'État qui finance ces institutions-là contre les intérêts de la population elle-même. Et pour moi, c'est important puisqu'elle a accompagné cette expérience-là d'une mobilisation où on s'est retrouvé des dizaines de milliers de personnes devant le tribunal judiciaire et que ce qui compte, c'est à Paris, c'est pas tant le résultat judiciaire justement, c'est pas tant le non-lieu ou pas le non-lieu, c'est quel rapport de force et quelle force sociale est mise en mouvement au service d'un affrontement avec ces institutions qui servent la répression du pouvoir. Donc pour moi, c'est pas du tout contradictoire, c'est au contraire comment est-ce que ces rencontres avec un des piliers de la répression du régime permettent de amener des milliers de personnes à rompre avec ces illusions et à s'organiser politiquement pour comprendre que c'est par leurs propres moyens qu'ils arriveront à leur fin. Et c'est par ce mouvement tactique, parce qu'une position de boycott, elle condamne à une logique très minoritaire et elle abandonne l'immense majorité des gens à ces illusions-là, en fait. Pour moi, c'est une position, on va dire, faussement radicale, parce qu'elle elle n'a rien à répondre à toutes celles et ceux qui vont continuer à croire en la justice comme une...
Oui, d'ailleurs, de ce point de vue, vous mettez en doute ce que Geoffroy de la Gagnerie essaie d'expliquer.
Exactement.
À l'époque où il était dans le comité Adama, en tout cas il écrivait des bouquins et où lui effectivement appelait plutôt au boycott de la justice, et ça ne vous semble pas être un bon moyen. Mais là ce que vous dites, il est tout à fait vrai dès lors qu'on veut faire une défense politique. Ce que je veux dire par là, c'est ce que vous défendez, que la défense soit politique. Mais est-ce que toutes les victimes, et elles sont nombreuses, de violences policières, ont envie de se défendre d'un point de vue politique?
Ça, bien sûr que non.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Pour moi, la question, en fait, elle est... Il y a différentes manières de la poser. Parce que déjà, moi, ce que j'essaye de défendre dans le livre, c'est justement pas une défense politique au sens du manuel de l'avocat politique qui, à chaque occasion, va se saisir d'un prétoire pour faire un grand discours sur le capitalisme. Ça, ça peut exister quand vous défendez des militants révolutionnaires eux-mêmes. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'avocats et c'est eux-mêmes qui vont développer leur propre discours sur les idées qu'ils défendent, la cause qu'ils mettent en avant, le rôle de la justice dans la société. Mais moi, ce que j'essaye de défendre, c'est la nécessité d'une compréhension politique du rôle de l'institution judiciaire et de la repolitisation de la sphère judiciaire. Et donc ça, une fois qu'on a cette clarté-là, nous, en tant qu'avocats, en tant que militants du mouvement social, en tant que militants syndicaux ou politiques, ça change complètement ce qu'on attend de l'institution et comment on aborde un procès, y compris un procès qui n'est pas politique. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens qui n'ont pas spécialement envie de... qui portent pas... Moi, je défends plein de... Je fais plein de droits pénals communs, hein, on va dire. Je fais plein de stupes, de violences, de tout ce que vous trouvez dans les salles de comparution immédiate à Bobigny. Je fais ça tout le temps. J'ai pas de problème. Mais par contre, moi, je pense que la question, c'est que j'ai conscience de ce à quoi je m'affronte et de comment je m'y prépare. Et pour le dire très concrètement, moi, je pense que je plaide pas tant pour une systématisation de la défense politique que pour une repolitisation de la sphère judiciaire. Et par exemple, quand on regarde la dynamique qui existait dans les années 70, c'est pas que le fait qu'il y avait des militants révolutionnaires, des maoïstes, des trotskistes, tout ce que vous voulez, qui plaidaient leur cause dans les tribunaux, c'est que même des prisonniers dits de droit commun s'organiser en comité d'action des prisonniers dans les prisons, donc des gens qui étaient incarcérés pour des faits qui n'avaient rien de politique, pour lutter pour leurs propres conditions et pour déconstruire les idées majoritaires sur la prison, sur la justice, sur l'incarcération, et qui imposaient un rapport de force directement vis-à-vis de ce qu'ils subissaient. C'est ce qui existait aussi massivement aux États-Unis, non seulement évidemment le mouvement des Black Panthers a produit une littérature très très riche sur les questions judiciaires, mais au-delà de ça, c'est au sein de l'institution carcérale, qui a toute une génération de jeunes noirs réprimés par le pouvoir en raison évidemment de leur position sociale et raciale, qui se sont radicalisés politiquement, qui découvrent le marxisme en Absolument. Prison, qui s'organisent pour s'affronter à l'État. Donc moi, c'est ça que je dis. Évidemment, même quand on est un jeune de quartier populaire ou un travailleur précaire, etc., et pas forcément un militant révolutionnaire, notre propre intérêt, c'est au contraire de comprendre le sens politique qu'elle a cette condamnation pour pouvoir s'organiser collectivement et construire un rapport de force qui nous permettra d'obtenir gain de cause. Donc c'est pour ça que ça dépend pas juste du fait de savoir si oui ou non on développe un grand discours politique, parce qu'en plus on peut avoir des désaccords entre différents types de militants politiques, mais je dis qu'à l'inverse, on ne peut pas face au niveau de crise du système, au niveau de radicalité des classes dominantes, au niveau d'offensives qu'ils mettent dans tous les dispositifs qu'ils imposent, se défendre de manière individuelle et isolée. Et c'est vrai pour tout, c'est vrai si on est étranger, quand on regarde les lois Darmanin, je veux dire aujourd'hui il y a un tel niveau de persécution que même du point de vue de son propre intérêt sur des mesures partielles, si on n'enclenche pas un rapport de force plus global, on ne peut pas obtenir gain de cause.
Mais vous ne pensez pas, néanmoins, si on regarde, puisque vous regardez l'histoire, hein, on va y venir, le 19e siècle, les années 60, 70, c'est absolument passionnant, mais vous ne trouvez pas quand même que certains des avocats que vous citez, sans tout à fait les démonter, mais en disant grosso modo que leur ambition, je cite, de désarmer la force par le droit se heurte frontalement à la faiblesse structurelle du pouvoir judiciaire dès qu'il s'agit de police, là je vous trouve dur, parce que en fait, si on regarde ces 15 dernières années, il n'y a jamais eu autant de victoires contre les violences policières. Encore dernièrement, un policier a été condamné à 10 ans de prison. Ah ouais. Avec
le meurtrier d'Olivier Gomez.
Avec mandat de dépôt. C'est-à-dire que le type est allé directement en prison. Moi, je ne suis pas pour les prisons, donc je ne me satisfais pas de ça. Je dis juste qu'il y a quand même eu des changements. On voit bien que dans les rangs de la police, il y a cette crainte maintenant d'être traîné devant les tribunaux, pour employer l'expression commune. Et donc, moi, je vous trouve un peu dur là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un côté... vous voulez tout de suite?
Non, pas du tout. Moi, comme je disais même tout à l'heure, je ne dis pas qu'il n'y a pas de victoire. Il y a des victoires, même moi, il y a des victoires. Je ne sais pas, je raconte par exemple comment on a défendu, c'est pas sur le terrain des violences policières, mais pour donner un exemple, comment est-ce que moi, j'ai défendu Christian Porta, qui est un syndicaliste dont l'employeur a essayé de le virer de manière ultra délirante, etc.
Et on a menacé de fermer sa boîte, le gars.
Ah ouais,
non, mais ça vaut le coup de le raconter.
Là, je le raconte ?
Oui.
Non, mais c'est pour donner un des exemples, parce que j'essaye de montrer aussi, pour revenir peut-être un tout petit peu en arrière, après on pourra rediscuter de cette histoire de violence policière, mais j'essaie de montrer le visage protéiforme en fait des offensives sécuritaire et de montrer qu'il y a une articulation entre ça, les offensives antisociales, que c'est précisément parce qu'ils imposent en permanence de nouvelles contre-réformes contre les travailleurs et les travailleuses qu'ils ont besoin de durcir leurs outils répressifs. Et du coup, je donne un exemple d'un phénomène de radicalisation patronale qui s'est exprimé à l'occasion d'un salarié que j'ai défendu qui s'appelle Christian Porta, qui était dirigeant syndical de sa boîte, qui l'est toujours d'ailleurs, qui est un syndicaliste très combatif que l'employeur a essayé de virer en vraiment prenant le parti pris d'une blitzkrieg en disant je vais y aller comme je vais faire du en même temps, inspiré par le macronisme, il s'est dit je vais le massacrer et il a licencié en toute illégalité en le revendiquant puisqu'il a licencié contre la décision d'inspection du travail. Donc c'est un truc qui se fait jamais évidemment quand vous êtes protégé, salarié protégé, c'est l'inspection du travail qui donne l'autorisation ou pas. Si l'inspection du travail refuse, vous devez saisir un tribunal administratif pour contester la décision d'inspection du travail. Vous n'êtes pas censé dire l'inspection du travail je m'en fous. Donc lui dit l'inspection du travail je m'en fous, donc il le licencie quand même. On le fait réintégrer, il dit le prud'homme je m'en fous, donc il le relicencie une deuxième fois. Et il y avait un phénomène de grève très important. Il disait si jamais Christian Porta est réintégré, je ferme l'usine. Oui. Donc je veux dire, c'était vraiment une politique thatchérienne, etc. Et à l'issue de ce combat-là, nous on a obtenu une victoire écrasante puisqu'on l'a évidemment fait réintégrer, on l'a fait condamner à 500 000 euros. Il y a eu au-delà de cette question judiciaire. C'est pour ça que j'essaye de dire, pour boucler avec cette histoire de victoires qui peuvent exister, y compris sur le terrain des violences policières. Moi, je dis pas que c'est impossible d'obtenir des victoires juridiques ou judiciaires. Moi, j'en obtiens. Par exemple, Christian, on a fini par gagner sur toute la ligne. Non seulement on l'a fait réintégrer, mais en plus de ça, on a gagné 500 000 euros.
Donc, mais pour les victimes, c'est essentiel. Quand même,
bien sûr, non mais c'est pas le débat. Non mais ça, bien sûr, et c'est vrai pour des violences policières, il y a des bonnes décisions comme il y en a des mauvaises. Mais la question que j'essaye de dire, de quoi c'est le produit en fait, et qu'est-ce que ça exprime parce que le problème, c'est qu'on peut pas nous se contenter de l'aléa judiciaire qui fait qu'un jour on a de la chance, on tombe sur un juge sympa, le lendemain c'est plus le cas. On voit par exemple la discussion non seulement sur le comité Adama, mais sur la requalification par la cour d'appel de Versailles de la mise en examen du meurtrier de Naël, qui arrive à nous. C'est exactement comme Olivio Gomez, hein, c'est-à-dire que c'est des refus d'obtempérer. C'est des meurtres à bout portant. Il y en a un qui prend 10 ans. Bon, effectivement, c'est significatif. Il y en a un autre, ça se fait requalifier en violence ayant donné la mort sans intention de la donner. Homicide involontaire.
Pour Naël, ça a été requalifié récemment.
Voilà. Donc, évidemment, le problème, c'est que nous, on ne peut pas se contenter de l'aléa judiciaire et du juge sur lequel on va tomber. Et même dans l'hypothèse d'une victoire, et je donne l'exemple de Christian puisque je l'ai vécu de l'intérieur, nous, on aurait pu se dire, encore une fois, juridiquement, on a raison. En fait, c'est une violation caractérisée, ouverte, indiscutable. On n'a pas besoin de construire une grève, parce qu'on a fait un truc de fou. Hein. C'est pas juste qu'on a déposé des recours au prud'homme, c'est qu'il y a eu une grève majoritaire dans l'usine où il y a eu pas un ouvrier qui partait travailler avec des on a essayé de nationaliser la question, on a fait un mouvement de lutte énorme, parce que ce qui nous intéresse au-delà de la victoire tactique, c'est quelles leçons politiques les gens peuvent en tirer à partir d'une expérience isolée pour que ça se généralise dans un contexte où la dynamique elle est générale, c'est-à-dire que le licenciement des syndicalistes au moment où on en discutait, il y en avait plus de 1000 syndicalistes CGT licenciés après la réforme des retraites. Mais... donc nous ce qui nous intéresse, c'est pas juste de dire super, le conseil de prud'homme de Forbach nous a donné raison, c'est de montrer comment, avec quel rapport de force on a pu obtenir ça pour que ce soit une leçon pour le reste de notre classe, des travailleurs et des travailleuses. Et c'est vrai pour les violences policières, c'est-à-dire que au-delà de du résultat judiciaire, la question, c'est quel est le poids aujourd'hui que prennent la question des violences policières ? Qu'est-ce que les gens en comprennent ? Dans quelle mesure est-ce que c'est générateur de mobilisation ? Et par exemple, sur la question de Naël, ben on voit les immenses révoltes que ça a suscité après la mort de Naël. Pour moi, c'est un phénomène politique très important. Donc ce que je dis, pour moi, et je finis, pardon, pour ne pas mettre trop longtemps, mais moi, mon livre n'est pas du tout un livre pessimiste, par exemple. C'est pas du tout un livre où je considère qu'on est écrasé par le rouleau compresseur des offensives liberticides. Je montre au contraire qu'il y a un phénomène de polarisation qui s'exprime certes à droite avec ces offensives-là, mais aussi à gauche avec des phénomènes de contestation extrêmement radicaux qui, précisément, puisqu'il y a moins en moins de marge de manœuvre sur le terrain judiciaire, s'expriment dans la rue, s'expriment idéologiquement, et pour ça... il faut lui donner une continuité stratégique, une continuité idéologique, une continuité politique. Il faut l'organiser, il faut la structurer, il faut tisser des fils de continuité avec les expériences du passé. Et c'est comme ça qu'on pourra aller au bout de ces phénomènes-là, quoi.
Précisément, pour aller au bout de ces mobilisations, vous abordez la question de défense révolutionnaire, pour une défense révolutionnaire des droits démocratiques. Mmh. Et avant de dire ce que vous conseillez, enfin ce que vous aimeriez qu'on qu'on fasse les uns et les autres. Je disais tout à l'heure, quand la gagnerie propose de faire du boycott, vous dites que ce n'est pas que critiquer le caractère bourgeois de la démocratie capitaliste n'implique pas pour autant d'abandonner la défense des droits démocratiques lorsqu'ils sont menacés, ni de renoncer à mener des batailles articulées au terrain judiciaire. J'aimerais vous entendre là-dessus.
Bah, un mot peut-être sur ce que je dis de la gagnerie et pour lier à ça, parce que moi, je discute avec ce que dit la gagnerie dans son bouquin « Par-delà le principe de répression », où je dis, moi, je peux partager, évidemment, toute la logique qui consiste à critiquer le paradigme répressif et punitif. Évidemment, ça, moi, je suis d'accord. Mais en fait, lui, il en tire une conclusion que je partage moins, puisqu'il distingue, d'une certaine manière, l'état pénal et répressif de ce qu'il appelle l'état social, comme s'il pourrait y avoir un état dans le cadre du système capitaliste qui ne serait pas répressif, ce que moi, je conteste. Et c'est ça la racine, en fait, de ma logique politique, c'est de dire, quand on s'affronte à la justice, derrière, on s'affronte à l'État, en fait. Ce qui, pour moi, est indispensable pour les classes populaires et les travailleurs. Et c'est, on ne pourra pas faire de raccourcis, on ne peut pas esquiver le problème de l'État, au point où, pour moi, la position de boycott de la gagnerie, qui n'en est pas vraiment une en plus, mais puisqu'il dit, en fait, il pourrait y avoir un État social sans principe de punition, ce qui, pour moi, est impossible, dès lors qu'on continue à vivre dans une société économiquement inégalitaire. Et il dit, par exemple, on pourrait faire une grève générale de la plainte, où, en fait, plus personne porterait plainte, et comme ça...
Le système s'effondrerait sur lui-même.
Les systèmes s'effondreraient sur lui-même.
C'est ce qu'il explique, oui.
Ce qui est faux, parce qu'en fait...
Bah oui.
ce qui est complètement faux, parce qu'en fait, c'est pas les victimes comme l'État invente en plus, parce que l'État instrumentalise beaucoup le principe des victimes au service de ses propres intérêts. C'est pas les victimes qui décident du principe punitif. Précisément, c'est l'État. C'est-à-dire que si plus personne porte plainte, vous inquiétez pas qu'il reste des procureurs. Parce qu'en France, c'est le parquet qui accuse. C'est pas un individu au pénal. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on est victime de violences policières, on a un tout petit peu moins de chance de voir l'auteur du crime poursuivi que si on est victime d'un simple meurtre. Alors pourtant qu'un policier, on peut s'imaginer que c'est plus grave, puisque c'est quelqu'un qui a l'autorité de l'État, et donc qui représente une institution et pas juste son propre cas individuel. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est une fausse solution de penser qu'on peut contourner le problème de l'affrontement avec l'État qui s'exprime de manière très claire en fait au sein de l'institution judiciaire. Et c'est pour ça que, pour dire comment en positif pour moi ça se construit, c'est de dire précisément il faut ni l'éviter ni la sanctifier. Il ne faut pas la sanctifier au sens de, pour moi, le sentiment majoritaire à gauche qui consiste à faire de la lutte dans les tribunaux une fin en soi et d'espérer en fait qu'un jour on retrouve un espace démocratique indépendant dans lequel on puisse obtenir gain de cause. Mais il ne faut pas non plus l'éviter, puisque c'est une manière d'abandonner des centaines de milliers de personnes à cette illusion qui rend orphelin en fait d'une vraie politique offensive. Et à l'inverse, il faut se saisir de chaque occasion qui existent, et elles sont nombreuses, c'est ce que je dis, puisqu'en réalité, c'est pas nous qui décidons si un procès est politique ou pas, c'est l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui poursuit des militants, c'est l'État qui prend des décisions qui servent ses propres intérêts, qui les explicite, qui les justifie, et à partir du moment où on est poursuivi politiquement, moi je dis que si on se défend pas politiquement, on risque de perdre sur tous les terrains, à la fois judiciairement et à la fois politiquement, puisque l'État c'est ce qu'il fait. Hein. Et du coup, moi ce que je dis, c'est qu'il faut se saisir de toutes les brèches, de toutes les occasions qui existent, pour utiliser tactiquement les institutions pour les affaiblir, donc pour en démontrer le caractère artificiel, pour défendre nos propres causes, tout en articulant ça avec une compréhension de l'État et de la société qui dit qu'on doit lutter pour leur disparition dans le cadre d'un projet de transformation sociale révolutionnaire qui articule en fait l'ensemble des aspects dont on discute, puisque je le disais, on est non seulement face à une situation d'offensive sécuritaire et liberticide, mais on est face à une situation de crise internationale, de guerre, de génocide, d'offensive antisociale permanente, où la réalité, c'est qu'on reconnecte avec de grands affrontements de classe partout sur la planète, et que c'est ça qui se traduit dans les tribunaux, même si c'est de manière déformée et spécifique à chaque fois, mais c'est ça qui se traduit dans les tribunaux.
Alors, pour politiser la justice, la répression judiciaire, vous nous invitez à aller dans le passé. Alors d'abord, il y a un passé proche, on peut aller rapidement, donc c'est par exemple Jacques Vergès par rapport au FLN, au porteur de valises pendant la guerre d'Algérie, c'est Gisèle Halimi, votre prédécesseuse au barreau de Bobigny, donc
à
Bob, voilà. et puis Henri Leclerc, qui fut très longtemps le président de la Ligue des droits de l'homme. Ces trois-là ont adopté une stratégie politique de défense que vous aimeriez bien voir ressurgir. Alors, En deux mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi cette stratégie de défense, cette défense politique que certains confondent avec la défense de rupture, ce qui n'est pas tout à fait forcément la même chose. Mais grosso modo, l'idée, c'est de dire, de montrer à l'État, justement, qu'il est en train de faire un procès politique quand il s'en prend à des militants, quand il s'en prend... c'est ça l'idée. Mais est-ce que vous pouvez détailler ce que vous retenez de Vergès, d'Halimi et de Leclerc ?
Moi, entre nous, mon préféré, c'est quand même Vergès.
Mais c'est marrant, ça ne m'étonne pas.
C'est plus radical.
C'est ça. Mais ce n'est pas forcément le plus victorieux.
Mais ça, c'est un peu... Un lieu commun, le terme n'est pas sympa, donc je cherche un synonyme. Mais ce n'est pas un lieu commun, mais c'est parce que... En fait, ça dépend ce qu'on appelle une victoire. Parce que, pour dire, bon, Vergès, Halimi, Leclerc, pour aller vite dans le livre, je les mets dans le même sac parce que c'est globalement la même génération, mais ils sont un peu différents les uns avec les autres. Et c'est pour ça que moi, je ne rentre pas dans le débat de défense de rupture ou pas, parce que c'est une discussion d'avocat qui, moi, ne m'intéresse pas tant que ça. Parce que je dis un mot, je rentre dans le détail de Vergès, Leclerc, tout ça, mais juste avant pour dire encore une fois, moi, le livre.
Mais les gens sont ravis de suivre un live en 1,5, en vitesse 1,5.
Putain, mais à ce point, je ne me rends pas compte.
Non, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est drôle. Allez-y, soyez vous-même, il n'y a pas de soucis.
Non, mais je ne sais pas, je vais faire un effort.
Non, tout va bien. Tout va bien.
Non, mais.
1,75, ben, ça a accéléré.
Je vais parler doucement. mais c'est pour pas vous ennuyer, quoi.
Personne n'est ennuyé, il y a beaucoup de monde, c'est parfait, nous dit Satrape. Non, ça va, nous dit Sweetie. Non, allez-y, okay. Soyez vous-même, vous embêtez pas avec ça.
Oui, pour dire, en fait, moi, je fais un petit détour par, effectivement, les avocats, on va dire, des années 50, 60, 70. Donc, mettons Vergès, Leclerc, Halimi, pour les plus connus. J'essaie de parler lentement. Mais j'essaye, une petite parenthèse avant de rentrer dans le détail de ce truc-là. Moi, j'essaye de dire que, justement, quand moi, je parle de défense politique, je ne m'intéresse pas tant à la pratique d'avocat, qui, au final, est ce qui est le plus connu, parce que Vergès, c'est celui qui a écrit De la stratégie judiciaire, qui est une espèce de manifeste de défense politique, etc. Mais j'essaye de dire que, précisément, le fait qu'on voit ça à ce point comme une activité d'avocat virtuose, pour moi, c'est une déformation. Parce qu'en fait, la défense politique, c'est avant tout la compréhension marxiste ou marxisante, parce qu'après c'est hétérogène, mais je veux dire, du rôle de la justice dans une société capitaliste, et du coup d'une adaptation de sa posture à cette réalité-là. Et c'est beaucoup plus vaste que le fait que des avocats plaident de manière virtuose de grandes causes politiques dans les tribunaux. C'est non seulement des révolutionnaires qui se défendent eux-mêmes, mais c'est aussi des formes de pratiques extrajudiciaires, et on en discutera, qui pour moi appartiennent tout autant à la défense politique que ce que fait Vergès. Ceci étant dit, mais c'est un préalable important parce que sinon, il y a une compréhension un peu caricaturale que c'est Vergès, des grands effets de manche, etc. Sachant que Vergès ne fait pas d'effet de manche, et je vais essayer de dire. Pour moi, Vergès, ce qui est le très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui, dans le contexte algérien qu'on connaît, prend acte, et ça nous permet de reconnecter avec ces discussions sur la démocratie libérale et sur le caractère schmittien du pouvoir bourgeois. Vergès, c'est quelqu'un qui prend acte du fait que dans un contexte de guerre impérialiste, évidemment que les colonisés n'ont droit à peu près aucun droit. C'est-à-dire que c'est organiser démocratiquement leur infériorité, statutaire, quoi. Donc en fait, à partir de là, il explique que se défendre sur le terrain de l'ennemi, c'est peine perdue pour les accusés. Et lui, il fait pas. C'est pour ça que quand je dis est-ce qu'il est victorieux ou pas, pour moi, c'est faux. C'est un des plus victorieux. Du point de vue de la défense et du point de vue de l'intérêt d'un mouvement de lutte et des insurgés, parce que lui, il fait une discussion très intéressante. L'élaboration, en fait, de ces discussions sur la défense politique dans le cas algérien, elle émerge beaucoup du bilan des procès des parlementaires malgaches, que lui définit comme... Je rentre pas dans le détail de tout ça dans le livre, parce que malheureusement, c'était trop long, mais il faudrait que j'en écrive un autre.
Le premier, d'ailleurs.
C'est le premier, oui. Où il explique que c'est une défense qu'il appelle de connivence, où il fait le bilan qu'effectivement, les parlementaires malgaches se sont défendus de manière beaucoup plus collaboratrice, je ne sais pas si on dit comme ça, avec le système. Et que même si certains ont pu prendre des peines inférieures, c'est au prix d'une éradication absolue du mouvement de contestation et de la liquidation physique d'autres figures. Et lui, il tire ça comme conclusion, et ce n'est pas le seul, parce que souvent on parle de Vergès, mais en fait, c'est un collectif qui a produit un manifeste dans les années 60 qui s'appelle Défense politique et qui regroupe aussi beaucoup d'avocats algériens avant qu'ils soient liquidés par l'État français. Et lui, il dit, face à cette réalité, nous, quand on parle de défense de rupture, et il y a une phrase que moi j'aime beaucoup parce que je la trouve symptomatique, il dit, dans un procès de connivence, je le cite de mémoire, hein, mais dans un procès de connivence, il n'y a qu'une volonté de vaincre, celle de l'accusation. Dans un procès de rupture, il y en a deux.
Oh, hey, c'est exactement ça.
Ben voilà.
Exactement ça. C'est
j'ai
pas
une bonne mémoire.
Vérification immédiate. Je lis, dans un procès de connivence, il n'y a qu'une volonté de vaincre, celle de l'accusation. Dans un procès de rupture, il y en a deux. C'est exactement ce que vous avez cité.
Et ben moi, je trouve que quand on
c'est
a dit ça, on comprend
c'est
tout.
C'est votre truc à vous, ça.
Bah, non, mais je connais pas mal de trucs de ça. Mais, parce que je les aime bien et je les ai beaucoup lus. Mais je veux dire, quand on lit cette phrase, pour moi, on a tout compris. C'est-à-dire que c'est pas du tout la posture caricaturale qu'on en a fait après, a posteriori, par des gens qui ont une position beaucoup plus de connivence avec l'institution, de faire comme si Vergès c'était un peu le loufoque jusqu'au boutiste qui envers et contre tout va tenir des positions de principe, c'est pas du tout ça. C'est qu'il dit si vous, vous avez envie de vaincre autant qu'a envie l'État, si vous êtes conscient que ce qui se joue, c'est l'affrontement de deux ordres sociaux, bah faut se mettre au niveau. Et à partir de là, il a développé des pratiques très 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 concrètes. Donc non seulement de visibilisation ultra massive de ce que ça a été la cause algérienne, c'est lui qui a fait les premiers procès de la torture en fait en Algérie et qui a fait les premiers et donc qui a vraiment renversé l'accusation où on part d'une position très très défensive où c'est, on est jugé par des militaires, on est accusé de terrorisme, on risque la peine de mort. Et à partir de là, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre qu'au contraire d'essayer de donner le plus d'importance, de rendre ça le plus coûteux possible pour l'État français. Donc de révéler son vrai visage, d'en faire le procès non seulement des pratiques de l'Algérie française, de la torture, etc. Il faisait des guérillas procédurales pour précisément faire la démonstration du caractère artificiel des principes de la démocratie libérale quand ils s'appliquent aux colonisés. Donc c'est pour ça que c'est un double mouvement à chaque fois, ce que j'appelle la défense politique. C'est à la fois défendre une cause, mais c'est aussi affaiblir le récit que l'État a sur lui-même et montrer comment est-ce qu'il est complètement formel. Donc il le faisait sur le terrain procédural.
Mais une par pratique exemple, révolutionnaire du droit, écrivez-vous, page 77, peut conduire à aller au bout de l'accusation en exigeant une condamnation pénale dès lors qu'elle permet de délégitimer, ou d'affaiblir l'État et ses agents. C'est-à-dire, mon client sera condamné et c'est parce qu'il sera condamné que je prouve l'injustice qui lui est faite. C'est ça.
Ça, c'est parce que, en fait, ça, moi, je le dis sur un autre truc, ce truc-là. Mais pour aller, par exemple, sur le truc de Vergès, parce que le débat qui se jouait à l'époque, et d'ailleurs dont ils répondent dans ce manifeste-là, qui s'appelle Défense collective dans les années 60, sur l'intérêt du client. Puisqu'évidemment, la réponse que faisaient les avocats partisans d'une défense de connivence, c'est de dire ah non, mais l'intérêt du client, il n'est pas respecté, ou en tout cas, l'intérêt du client, ce serait d'avoir de plaider une plainte moins importante ou d'avoir une position plus de conciliation, quoi. Et Vergès dit que c'est faux. Donc, c'est pour ça que c'est une caricature de dire ok, Vergès, c'est bien beau, on défend des grands principes, mais à la fin, on perd. C'est faux. Puisque lui, il démontre précisément comment, dans le contexte algérien, parfois des défenses plus de connivence peuvent permettre d'obtenir des peines plus légères, mais c'est une logique complètement court-termiste et tactique. Puisqu'en fait, c'est des gens qui, quand ils sortent de prison après avoir purgé quelques années, qui se faisaient liquider par les services de renseignement français, en fait, dans la confidentialité la plus totale, alors qu'à l'inverse, des personnes comme Jamila Bouyred ou Jamila Boupaja, elles ont été exposées au grand jour. C'est devenu des visages, en fait, de la lutte anti-impérialiste.
Bien
et
sûr.
C'est des gens qui ont fini par être graciés par De Gaulle, même si tu prends perpète. Parce que le problème, c'est que du point de vue du rapport de force que tu construis.
Je pensais plus au Vergès des années 70-80 qu'à celui des années 60. Mais bon, on va pas faire une exégèse sur Vergès. Il y a aussi quelque chose de très important pour vous qui se passe pendant, alors, dans les années 60, aux États-Unis cette fois, par rapport à la guerre du Vietnam.
Exactement.
C'est le tribunal Russell qui est un excellent exemple de ce que ça peut être que d'une politisation de la justice. Tout le monde ne connaît pas ce tribunal. Racontez-nous. Alors, le Vietnam, tout le monde sait, c'est à peu près ce que fait aujourd'hui Trump en Iran. Hein, voilà.
Ouais, ouais.
Oui, un peu partout. Enfin, bon, bref. Ah, vous cherchez la page. Alors, c'est page 82. Page 82.
Je vais dire ce que j'aime bien comme phrase.
Fondé à l'initiative du philosophe britannique Bertrand Russell et présidé par Jean-Paul Sartre, ce tribunal vise à appliquer aux exactions américaines la logique juridique établie à Nuremberg, où, pour la première fois, des dirigeants furent jugés pénalement pour leurs crimes de guerre.
Bah, voilà, c'est aussi ce que j'essaye de montrer dans la question de la politisation de la sphère judiciaire. De dire que ce n'est pas juste tenir des grands discours politiques dans les prétoires quand on est avocat et qu'on défend un prévenu, mais c'est aussi chercher tous les biais qui peuvent permettre d'affaiblir l'autorité de l'État par cette institution-là. Et du coup, je m'intéresse beaucoup aux phénomènes de justice populaire qui se sont développés dans les années 70, dont les tribunaux recels sont un des exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Je parle de la commission de Witt-Trotsky, et après, je pense que Sartre a décliné ce principe-là sur d'autres aspects, je le dirais. Mais les tribunaux recels, effectivement, c'est partir d'une logique qui avait aussi été celle de Vergès avant, puisque Vergès avait publié un pamphlet qui s'appelait « Un Nuremberg pour l'Algérie », pour Absolument. Lequel il avait été poursuivi avec ses confrères. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a un double mouvement dans le phénomène des tribunaux recels. C'est d'abord de dire « Il nous faut un espace dans lequel on peut discuter extrêmement largement de ce qui est en train de se passer au Vietnam et du fait qu'il y a un génocide qui est en train d'avoir lieu. » Donc en fait, de convoquer les plus grands experts de la planète, de convoquer des témoins, de convoquer des Vietnamiens pour qu'ils puissent faire état publiquement des exactions, des crimes, des massacres commis par les Américains. Et donc, ils ont construit un tribunal sur le modèle de Nuremberg en leur posant des questions à un juré qui devait trancher sur différents aspects, de savoir est-ce qu'il y a un crime contre l'humanité, est-ce qu'il y a un génocide, etc. Questions auxquelles ce jury, qui était par ailleurs très hétérogène, ont tous répondu oui à l'unanimité. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils ont cherché à démontrer que, précisément, les grandes instances du droit international construites par les puissances impérialistes ne pouvaient servir que la justice des vainqueurs. Et c'est pour ça qu'ils disaient « Nuremberg, c'est très bien, entre guillemets, mais Nuremberg n'a de sens que si les conclusions qui en sont tirées sont généralisables à tous les phénomènes de ce type-là. » Et il y a une phrase que moi je trouve très claire de Sartre, puisqu'en fait Sartre, dans Situation 8, chez Gallimard, là, la dernière version, il publie en fait tous les échanges qu'il y a sur ce moment de défense politique, donc les entretiens qu'il donne dans le Nouvel Obs, etc. Et il dit une chose, il dit « La législation fut si... » Donc il parle de Nuremberg. « La législation fut si exactement conçue pour sanctionner les forfaits de Hitler que les alliés ne s'aperçurent pas que du même coup, ils condamnaient les leurs. Guerre d'agression et de conquête, massacre des civils, exécution sommaire, sévices contre les prisonniers, torture, génocide, voilà ce qui fut alors nommé crime. À bon droit. Mais ces stipulations explosives, après avoir permis d'asseoir Göring sur le banc des accusés, risquaient d'y mener par la suite Salazar pour sa politique en Angola, ou qui sait, un ministre français ou anglais. » Et donc c'est ça la double démonstration des tribunaux recels. C'est non seulement qu'il y a un génocide au Vietnam, mais c'est en plus que les impérialistes ne se jugeront jamais eux-mêmes et que c'est la raison pour laquelle on a besoin de la mobilisation des masses pour mener une contre-offensive et interrompre ces crimes-là.
Concrètement, si on devait tenir un tribunal Russell aujourd'hui, par exemple en France, quels seraient les actes d'accusation pour vous?
Pour moi, il y a un tribunal Russell qui a existé sur ce modèle, qui est un tribunal Russell pour la Palestine, dont Gisèle Halimi a participé en son temps, par exemple. Et ce serait, en réalité... juger évidemment les crimes d'Israël, mais aller plus loin que ça, puisqu'on voit, par exemple, il y a des discussions très, très intéressantes en fait, ça nous permettrait de montrer aussi les limites intrinsèques des institutions internationales pour mettre un terme à la colonisation en Palestine. Parce que, évidemment, de la même manière qu'on se réjouit des décisions de la Cour internationale de justice en 2024 qui nous explique que la colonisation en Cisjordanie, c'est illégal, bon, on est d'accord, c'est bien, ça participe à affaiblir l'image d'Israël, etc. Le problème, c'est que vous voyez que ce sont les mêmes qui valident le plan Trump aujourd'hui et l'instauration d'une nouvelle force d'occupation coloniale. Donc ça nous permettrait non seulement d'établir qu'il y a un génocide en Palestine, mais ça, à la rigueur, ça l'est, mais ça nous permettrait aussi de montrer que si on attend après la CIJ, la CPI, l'ONU, on n'obtiendra jamais la fin de la colonisation et qu'on va avoir besoin de phénomènes de mobilisation à l'image de la flottille, à l'image de la grève en Italie, pour aller au bout de ce processus-là. Parce que, pour vous dire quelque chose que je plaide souvent, en observant des débats qu'il y avait dans les tribunaux Russell, etc., c'est qu'à un moment, il y a un journaliste qui demande à Bertrand Russell, mais je ne comprends pas pourquoi les insurgés vietnamiens...
C'est marrant, quand vous faites le journaliste, il a l'air con.
Ah ouais. je fais le juge aussi. Hein.
C'est marrant.
Il dit pourquoi est-ce que vous avez pas ok vous ramenez les militaires américains, les dirigeants américains, mais pourquoi il y a pas les terroristes vietnamiens qui eux aussi sont jugés puisque eux aussi ils commettent des crimes de guerre. Et Bertrand Russell répond est-ce qu'au tribunal de Nuremberg on a jugé l'insurrection du ghetto de Varsovie? Et donc je trouve que c'est une manière qui permettrait aujourd'hui de montrer les limites intrinsèques des institutions internationales qui, in fine, finissent par mettre sur le même plan des crimes de guerre de masse et des une situation incomparable, la question d'une guerre asymétrique. Les institutions internationales sont incapables de juger le fait colonial. Et de ce point de vue, je cite aussi Noura Erakat, qui est une juriste palestinienne, qui montre comment est-ce que les institutions internationales, le problème, c'est qu'elles réifient le principe de l'asymétrie entre les États, et que en même temps qu'elles sanctionnent, par exemple, les aspects les plus outranciers, les plus brutaux de la colonisation israélienne, elles le font pour mieux légitimer le principe fondateur de cette occupation-là. Donc pour moi, la logique des tribunaux Russell, elle pourrait totalement se transposer aujourd'hui à la question palestinienne, non seulement pour donner de l'importance à cette cause-là, mais aussi pour montrer les limites intrinsèques des grandes institutions internationales pour aller au bout de la lutte pour l'autodétermination des peuples. Et c'est ce qu'a fait Sartre dans les années 60 et 70.
À propos des années 60-70, dont vous dites qu'elles marquent l'âge d'or de la défense politique, vous donnez des explications qu'il est bon, à mon avis, de rappeler ici, qui sont absolument passionnantes pour comprendre aussi dans quelle sauce on est aujourd'hui. C'est ce qu'on va appeler la doctrine Mitterrand d'une certaine manière.
Ah oui,
mais en gros, pour le faire vite, et vous allez pouvoir développer, mais c'est, j'ai envie de vous laisser respirer de secondes. L'idée, c'est que Mitterrand arrivant au pouvoir considère qu'il faut arrêter les procès politiques, hein, qui avaient cette idée que le procès politique alourdissait les peines. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait le crime ou le délit que vous commettiez, mais en plus, il y avait une circonstance aggravante qui était, vous le faites au nom politique. Donc, il y a plutôt une bonne idée qui est de dire on va enlever ce facteur aggravant. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que c'est ce que vous appelez, et je crois que vous avez tout à fait raison, la dépolitisation finalement, d'un point de vue judiciaire, des luttes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve, je parlais là de sauce, si je vous ai bien compris, dans un problème qui est que, en fait, on ne montre plus ce qu'est l'engagement politique et comment il se heurte au pouvoir judiciaire. Mais est-ce que vous pouvez rappeler d'abord comment ça s'est passé, cette forme de dépolitisation de la justice, a priori avec une forme de bienveillance ou...
Ouais. Je dirais pas ça, mais...
Vous diriez pas ça, vous diriez
pas
quoi
de bienveillance. Bah, en fait, je dirais qu'on connaît beaucoup les conséquences de l'offensive néolibérale sur le terrain économique, on va dire, et en termes d'attaque contre les droits des travailleurs et des travailleuses, mais on en connaît moins les conséquences sur un terrain judiciaire. Et ce que j'essaye de dire, c'est qu'à partir des années 80, à la fin des années 70, il y a à l'échelle de la planète la grande offensive néolibérale qui prend le visage de Thatcher en Angleterre, de Reagan aux États-Unis et qui prend le visage de Mitterrand en France. Ils ont exactement la même politique en matière judiciaire. C'est coordonné, hein. C'est des offensives qui sont pensées, y compris avec l'OTAN. Mais pour moi, c'est pire en France parce que ça a le visage pervers de la gauche. Donc c'est encore pire. Enfin, je veux dire, en termes de conséquences idéologiques, c'est plus confusant, on va dire. Enfin, c'est générateur de confusion, je ne sais pas si on dit vraiment confusion.
Oui, absolument. Ou de découragement.
Exactement, donc c'est pire en fait, parce qu'au moins à la droite, on sait,
oui, voilà,
on sait qui est l'ennemi, on sait à quoi s'attendre.
Il n'y a pas de compris sur la marchandise.
Exactement. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'échelle de la planète, y compris élaborée dans des sommets de l'OTAN, il y a vraiment cette volonté de savoir comment mettre un terme à cette vague insurrectionnelle et de lutte des classes qu'on connaît dans les années 60-70, à la fois évidemment parce qu'il y a les grands mouvements de lutte anti-impérialiste, de décolonisation, Algérie, Vietnam, etc., mais aussi parce qu'il y a des phénomènes de lutte des classes très importants dans les différents pays impérialistes. En France, évidemment, on connaît mai 68, mais c'est partout pareil à l'échelle de la planète. Et il y a une contre-révolution bourgeoise qui prend la forme du néolibéralisme, qui cherche à durcir considérablement en fait, les offensives contre les travailleurs et contre les classes subversives, mm-hmm. et à mettre un terme à toutes les formes de lutte extra-parlementaire qui existaient, avec une brutalité extrême. Par exemple, en Angleterre, c'est peut-être connu, enfin, moi, c'est un des trucs qui m'a le que je lis souvent, qui est la politique qu'a eu Thatcher contre les jeunes militants de l'IRA. Et d'ailleurs, moi, je trouve que ce qui se passe en Angleterre avec Palestine Action et la grève de la faim des militants de Palestine Action nous fait une espèce de parallèle un peu...
On rappelle en deux mots, Bobby Sands et d'autres vont mourir de grève de la faim parce que Thatcher ne refuse la moindre négociation.
Voilà, parce qu'en fait, il se passe exactement la même chose que ce qui se passe en France, mm-hmm. c'est qu'il y a eu des politiques qui visent à supprimer le statut des détenus politiques. Et je dirais un mot de la France et pourquoi est-ce qu'ils essayent de nous faire passer ça pour une mesure de gauche. Et en gros, les militants de l'IRA, ils se battent pour la reconnaissance politique de leur incarcération. Donc non seulement c'est une question de principe, on va dire, de fond, de dire en fait, nous, on est poursuivis le sens politique de ce qu'on a défendu. Mais c'est aussi des conséquences pratiques, puisqu'en fait, vous pouvez vous réunir, vous avez le droit à la presse, vous avez le droit à un certain nombre de conquêtes qui, par ailleurs, tiraient vers le haut les conditions de détention générale. Hein. C'était pas juste un truc de dire c'est pour les politiques et pas pour les autres. C'était aussi que c'était des moteurs de mobilisation à l'intérieur des prisons, c'est important de le rappeler. Donc ils luttent pour ça, grève de la faim, etc. Et Thatcher, jusqu'au boutiste, les laisse mourir les uns après les autres. Ils sont 10. Bobby Sands, il n'a pas 30 ans. Ça a été un député élu en prison. Et c'est sa célèbre phrase, il n'y a aucun, il n'a aucun prisonnier politique, il y a juste des prisonniers criminels. Enfin, ce n'est pas comme ça la phrase. Mais bon, en gros, elle dit il y a juste des actes criminels et aucun acte politique, quoi. Et en fait, dans les années 80, en France, c'est exactement la même chose. Ils décident tous de pareil. Hein. Et sauf que c'est Mitterrand. Et donc, il va prendre un chemin particulier, c'est-à-dire qu'avant les années 80, il y avait ce qu'on appelait la Cour de sûreté de l'État, qui était une juridiction d'exception, notamment mise en place utilisée par De Gaulle, qui servait à juger les infractions politiques. Et ça avait comme conséquence, évidemment, que c'était des juridictions qui pouvaient aboutir à des condamnations plus dures, c'était des juges militaires, il y avait des procédures dérogatoires, des gardes à vue très longues, etc. Donc tu avais une revendication légitime du mouvement social et de la gauche qui était de dire qu'il faut en finir avec cette cour de sûreté.
Voilà, ce que j'appelais bienveillant, voilà, c'est ce que vous appelez légitime. Vous parlez même d'une aspiration historique au fait de supprimer cette cour de sûreté de l'État, aspiration historique de la gauche, dans la mesure où elle met fin à un régime de répression particulièrement sévère. Et en fait, après, vous expliquez qu'il y a une autre cour qui arrive.
Exactement. Mitterrand, l'année d'après, donc il la supprime. Il dit « Super, je suis de gauche, je la supprime ». L'année d'après, quelques mois plus tard, il instaure une autre juridiction d'exception qui s'appelle la cour d'assises spécialement composée qui a des dispositifs tout aussi répressifs, mais qui est pire, en fait, que la cour de sûreté de l'État parce qu'on passe du paradigme du politique à celui du terroriste. Et donc, avec lui, non seulement c'est le franchissement d'un cap idéologique, mais c'est aussi la perte de tout un tas de conquêtes matérielles qui faisaient qu'il y avait un statut du prisonnier politique. Donc, encore une fois, ils pouvaient se réunir de manière collective, ils avaient accès à un certain nombre de droits, ils avaient la possibilité d'avoir une défense commune, de faire des réunions dans les prisons, etc. Tout ça est supprimé. Et la cour d'assises spécialement composée est tout aussi répressive. C'est les cours d'assises qui jugent des crimes terroristes. C'est comme ça que sont condamnés les militants d'Action Directe, Georges Abdallah, les militants basques de l'IPA et Tarak, des organisations basques du Pays Basque Nord. Et en fait, on aboutit à des peines tout aussi dures, mais avec un changement idéologique absolument nocif, puisque c'est la traduction judiciaire de toute l'offensive idéologique qui va exister dans ces années-là, qui va consister à dire la transformation radicale de la société n'est plus possible, there is no alternative, la démocratie c'est le moins mauvais des systèmes, qui va en France avoir la perversité de venir évidemment par le biais de la répression. Donc je veux dire, c'est comme ça qu'il y a aussi des grandes politiques de condamnation, je disais Action Directe, Georges Abdallah, etc., mais aussi par des phénomènes de cooptation. Et c'est là où c'est le plus pervers, c'est que les années 80, le grand cauchemar des années 80, c'est le moment où va être intégré à l'État, au régime, aux institutions, des vagues de militants insurgés dans les années 70. Donc on a l'exemple paradigmatique, c'est Cohn-Bendit, mais il y en a plein d'autres. Et sur le terrain judiciaire, c'est archi concret, c'est très intéressant de lire le livre de Antoine Comte qui raconte ce basculement-là, de voir toute la génération...
Avocat, s'il en est.
Ouais, avocat, exactement.
Vous citez, hein, d'ailleurs.
Ouais, et il parle de la dérive de la gauche judiciaire. Comment est-ce que, évidemment, dans les années 60-70, il y avait des phénomènes de politisation très importants avec des avocats, des juristes, on va dire, qui allaient du PS jusqu'à la gauche maoïste, trotskiste, etc., révolutionnaire, qui pouvaient mener des grands combats communs. Et il donne un exemple ultra concret, c'est le procès des soldats de Draguignan, où en fait, c'est l'époque où il y avait des comités de soldats qui avaient une activité politique, qui distribuaient des tracts, qui se mobilisaient, etc., et qui avaient été poursuivis pour ça, parce qu'ils n'avaient pas le droit, etc. La gauche les défend,
notamment
c'est un grand
dénommé
procès.
Charles Hernu,
qui, au final, après Mitterrand, devient ministre et passe du côté de l'accusation. Et en fait, il montre comment est-ce que c'est pire, puisque la gauche a besoin de donner des gages à l'État, de montrer qu'il peut mater les révoltes dans l'armée comme la droite n'avait pas su le faire, finit par avoir des politiques plus répressives, et ils le font idéologiquement avec l'autorité morale de celles et ceux qui se sont battus aux côtés des travailleurs. Et ils expliquent à tout le monde aujourd'hui, les révolutionnaires, vous êtes des fous, tout ce qu'il faut faire c'est rentrer dans le régime et défendre ses intérêts. Et ça va, et moi je cite beaucoup Guy Hockengem, dont j'adore le texte, et il faut lire ce pamphlet qui s'appelle Du Col Mao au Rotary Club, qui est une gifle de centaines de pages à toutes ces générations-là, aux renégats de 68, et il dit que c'est la gauche qui a la responsabilité de la dévaluation générale de l'utopie. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter férocement, parce que pour moi, c'est ça qui produit de l'impuissance et qui est aussi à la racine de toutes les illusions dont on discutait au début, de faire que toute une génération contestataire à laquelle on appartient, donc qui est opposée évidemment au macronisme, qui est opposée au gouvernement, qui est opposée à la guerre, le fait avec les outils de l'ennemi en fait. Le fait avec les illusions auxquelles on a été biberonné, qui consistent à nous dire, voilà, il faut avoir confiance en la justice, etc. Ça tombe pas du ciel, c'est le produit des années 80. Et pardon, après je m'arrête, mais et je le discute aussi beaucoup sur un terrain féministe, puisque je fais toute une partie dans le livre où je montre ce que c'était la défense politique du mouvement féministe dans les années 70, qui n'avait rien à voir avec aujourd'hui le rapport du mouvement féministe majoritaire à l'institution judiciaire, qui est quand même beaucoup centré autour de la possibilité de déposer plainte, d'obtenir des condamnations.
Alors, une autre Elsa, Elsa Deck-Marceau, sera au poste la semaine prochaine, et elle sort un bouquin, d'ailleurs à La Fabrique également, je crois.
On a fait un truc ensemble.
Et il paraît que vous avez fait un truc ensemble.
Jeudi dernier, ouais.
Et voilà, voilà.
C'était trop bien.
Donc on parlera de ça. Alors on peut pas... On peut pas déflorer tout votre livre. Non, mais tout va bien. Je voudrais juste qu'on arrive. Il y a quelques éléments d'actualité quand même qu'il faudrait discuter. Mais en gros, c'est un peu décevant ce que vous proposez. Ce que vous proposez, en fait, c'est que les avocats se prennent un peu en charge. Vous tapez pas mal sur le SAF, le syndicat des avocats de France, en trouvant que grosso modo, il est trop. Il est trop connivant, il est trop complice d'un système, il n'est pas assez... mais au fond, je trouve que vos propositions ne sont pas à la hauteur de votre dénonciation. Je me trompe ?
Bah, moi, je trouve forcément, mais... Bah, non, moi, au contraire, moi, en fait, j'essaye de dire... Enfin, au contraire, moi, déjà, j'essaye de montrer que cette compréhension-là de la justice, elle a existé, que ça n'a rien d'inatteignable, au contraire, et que ça s'est traduit aussi par des formes d'organisation et de lutte qui sont beaucoup plus radicales que ce qui peut exister aujourd'hui. Et c'est sur ce modèle-là que nous, on a construit un collectif qui s'appelle le Collectif d'Action Judiciaire, qui est un clin d'œil direct, en fait, aux organisations qui ont existé dans les années 70, et notamment Mouvement d'Action Judiciaire, qui est un collectif d'avocats et de juristes.
Le MAJ.
Le MAJ, qui s'est construit dans la chaleur des événements de mai 68 et qui a une position qui consiste à dire qu'en réalité, la pratique d'avocat n'a de sens que si elle se met au service d'un projet qui la dépasse. Que si elle a un ancrage dans la lutte des classes, dans le combat des travailleurs et des travailleuses, que si elle remet en question en réalité le caractère libéral de la profession, puisque c'est quelque chose aujourd'hui à gauche, personne ne parle de ça, hein. Tout le monde se trouve ça complètement normal que les avocats ce soit pas un service public, alors que moi je considère que les gens, c'est comme la santé, ils choisissent pas, les pauvres en tout cas, les précaires, les classes populaires ne choisissent pas de se retrouver devant la justice. Et pour moi, c'est comme on a besoin d'un médecin parce qu'on est malade, on est convoqué, on devrait pouvoir avoir accès à un avocat gratuitement. Pour moi, on devrait être fonctionnaire, on devrait être payé par un impôt financé sur les grandes fortunes et on devrait être payé tous pareil. Et c'est des discussions qui existaient dans les années 70. Et au-delà de ça, c'était des collectifs d'avocats qui remettaient en question les fondements même de la justice, c'est-à-dire que... Et parce que ce basculement des années 80, il s'accompagne aussi par cette adaptation dans le monde judiciaire. C'est pour ça qu'il y a le SAF, qui est une organisation plus syndicale, qui se recentre aussi sur les intérêts de la corporation. Et il y a un changement de paradigme où, en fait, de plus en plus, à partir de là, les avocats qui se disent militants se considèrent militants parce qu'ils défendent une cause juste et qui défendent des militants ou qui sont du bon côté. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'avant ça, des avocats militants... C'était des communistes, des maoïstes, des trotskistes, des gens qui avaient un projet de transformation sociale et qui mettaient leurs compétences au service de ça, quoi. Et au contraire, moi, je considère qu'il n'y a pas de perspective plus enthousiasmante et plus ambitieuse que de dire à toute ma génération d'avocats qui a choisi de porter la robe pour défendre les opprimés, les exploités, mais qui fait face à un phénomène de démoralisation massive, parce que vous discutez avec n'importe quel avocat de mon âge qui, en fait, essaye de défendre, de faire du droit des étrangers, ils vont vous dire « ça fait un an que je ne gagne pas au tribunal administratif alors que j'y passe mes nuits et mes week-ends ». Et bien, toute cette génération-là, moi, au contraire, je leur dis qu'il faut s'engager dans un projet de transformation sociale aux côtés d'autres secteurs. Et que notre grande force, c'est de pouvoir allier une compréhension extrêmement fine d'un des piliers répressifs du régime, mais que ça, il faut le mettre au service de la force de transformation révolutionnaire des travailleurs et des travailleuses qui sont capables de faire grève, qui sont capables de bloquer l'économie, qui sont capables de s'affronter au système dans son ensemble. Et je propose ce mode d'organisation et que je pense qu'au contraire, c'est la plus grande des perspectives d'émancipation dans une société où en réalité, on ne peut pas se contenter d'être la caution démocratique d'un système objectivement pourrissant qui n'a plus rien à offrir à la majorité de la population. Et au contraire, moi, je suis très enthousiaste des perspectives que ça soulève et des propositions organisationnelles qui en découlent, quoi.
Question du chat. Au moment où, où vous, vous arriviez de Tim Rofil, pourquoi avoir fondé le collectif d'action judiciaire dont, dont vous parliez à l'instant ? Alors non, la question n'est plus là parce qu'elle était, là, elle était au tout début. Mais là, il y en a d'autres. Il y, y en a plein d'autres. Il y a plein de gens qui souscrivent à votre idée de sécurité sociale de la justice. D'autres qui appellent ça sur YouTube, c'est assez rigolo, service public de l'avocatie.
Ouais, pourquoi
voilà, pourquoi pas. Voilà, cette idée-là. Tim Rofil vous pose la question, pour vous, pourquoi avoir fondé le collectif d'action judiciaire sous tutelle de Révolution Permanente, écrit-il, alors qu'il existait un cadre transpartisan, ouvert à tous, avec des syndicats et des autonomes, secondés par la Legal Team. Legal Team, dont, avec laquelle vous n'êtes pas très tendre non plus, page 122, on pourra en parler. Alors d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que le collectif d'action judiciaire, c'est une émanation ou en tout cas c'est sous le contrôle de Révolution Permanente, et pourquoi l'avoir créé alors qu'il existe effectivement des legal teams dans maintenant un certain nombre de barreaux ?
Enfin, en fait, il y a le problème, c'est que bon, c'est pas sous tutelle, il y a pas besoin d'une tutelle. Par contre, oui, nous, comme je le disais, moi je pense qu'un cadre uniquement composé d'avocats n'a pas beaucoup de sens, et qu'au contraire, pour moi, il faut être militant d'organisation politique aujourd'hui pour être un bon avocat de lutte contre les offensives austéritaires et sécuritaires, parce que la réalité, c'est qu'il faut des contre-pressions. Moi, je suis très heureuse de militer dans un parti où je milite avec des ouvriers, avec des jeunes de quartier, avec des étudiants qui en permanence sont des contre-pressions aux pressions corporatistes et court-termistes de la profession. Et je pense qu'en réalité, avant les années 80, les avocats étaient des militants de parti, du Parti communiste, de la LCR et d'autres, précisément parce qu'ils concevaient pas le travail d'avocat comme un aspect juste partiel. Et c'est pour ça d'ailleurs que les révolutionnaires n'ont jamais, Marx, Lénine, Rosa, alors que c'est ceux qui ont peut-être pratiqué les défenses politiques les plus flamboyantes, n'ont jamais rédigé un manifeste de la défense politique, parce qu'en fait, ils considéraient l'affrontement judiciaire comme un moment de la lutte des classes et pas comme une fin en soi. Donc pour moi, ça aurait pas de sens de militer que comme avocate. Et la question des legal teams, nous, on milite avec plein de legal teams, il y en a plein, et j'en fais référence dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a la legal team, il y a la legal team antiraciste, il y a le catch, etc. Et c'est des avocats avec qui on se retrouve très souvent dans les salles d'attente des commissariats quand il y a des mouvements de lutte, et on travaille dans la pratique ensemble, mais on a des logiques politiques un peu différentes, non seulement parce que nous on considère qu'il faut un collectif interdisciplinaire, donc on est avec des travailleurs sociaux, on est avec des juristes, on pense qu'il faut pas limiter notre travail à la seule intervention judiciaire, on pense qu'il faut produire un discours sur l'institution, qu'il faut produire un discours sur le régime, qu'il faut avoir une compréhension marxiste de l'État, qu'il faut produire du travail théorique, et que pour ça il faut pour moi articuler notre pratique immédiate à un projet de transformation sociale, et que ce projet de transformation sociale, pour moi, évidemment, qu'il est lié à la construction d'organisations et de partis révolutionnaires, et que c'est au contraire ça qui permet de développer une activité judiciaire de la manière la plus ample et la plus ambitieuse possible. Et c'est pour ça que, par exemple, les legal teams, pour moi, et je le dis dans le livre, c'est une avancée de la période, dans le sens où, pour moi, ça émerge en 2016, c'est un symptôme de la repolitisation que je décris dans le livre, en disant en fait, nous on est dans une situation où précisément la crise de régime, la crise de la démocratie libérale, elle produit une repolitisation presque contrainte des prétoires, mais elle le fait sans l'héritage stratégique et théorique conscient de toute l'accumulation révolutionnaire des siècles derniers. Et le problème pour moi des legal teams, c'est que globalement se répète une division entre d'un côté des avocats qui gère la question juridique, et de l'autre, les militants. C'est-à-dire qu'il y a une forme de sous-traitance juridique où, en fait, il y a les militants plus radicaux du mouvement social qui sont les réprimés et qui sous-traitent leur défense à des avocats qui, eux, sont politiques de manière hétérogène, où il n'y a pas de projet construit de transformation sociale. Alors que moi, je considère que pour lutter efficacement contre le régime, oui, il faut se tenir à disposition de toutes les gardes à vue, mais il faut, au contraire, rejoindre un projet de transformation révolutionnaire et politique de la société. Pour ça, il faut construire un parti comme Révolution Permanente.
Alors, Tim Rofil, qui est toujours là, vous dit oui, d'accord, mais il y avait la coordination avec la Legal Team qui fait une réunion hebdomadaire d'accueil aux justiciables, qui est par exemple une des choses que vous appelez de vos voeux, hein, cette idée qu'il y ait beaucoup plus de rencontres entre les défenseurs et les justiciables. Vous venez de faire la démonstration pendant une heure et demie, donc c'est pas à peine que je répète. Vous proposez également, je vais appeler ça la grève du zèle, c'est-à-dire de venir, alors ça avait un autre nom.
La défense massive.
Ouais. La défense massive, voilà. Ça, c'est une idée magnifique. 5 avocats, et puis dans le tas, il peut y avoir un Henri Leclerc, qui viennent en comparution immédiate, qui défendent un pauvre gars qui s'est fait choper pour un vol à la tire. Et là, tout d'un coup, la justice expéditive est obligée d'étudier les textes, de lire les codes, etc. Il se trouve qu'on m'a dit qu'hier, ça a eu lieu. Parce qu'il y a eu protestation contre la loi sûre. Donc là, on va passer un peu à l'actualité. Est-ce que hier, vous avez plaidé, vous avez fait une défense massive de cet ordre-là ou pas ?
Alors, hier, c'était une journée de rassemblement. Donc en fait, il y a eu des mobilisations, il y a eu un rassemblement devant le Sénat, etc. Mais oui, on a fait des défenses massives. Moi, je suis à Bobigny. La journée de défense massive qu'on a organisée, c'était jeudi dernier, donc c'était pas hier. Mais c'est dans le contexte d'une mobilisation nationale contre le projet de loi sûre de Darmanin, où effectivement, c'est un projet de loi qui vise à instaurer un plaidé coupable criminel. Donc en gros, c'est ce qui existe déjà hein, en matière délictuelle, c'est-à-dire que vous avez un truc qui s'appelle les CRPC et que vous vous retrouvez face à un procureur qui fait une espèce de chantage aux aveux, qui vous dit « si vous reconnaissez les faits, je vais vous négocier une peine un petit peu moins, un peu moins grave que celle que vous obtiendrez devant un tribunal correctionnel », ce qui par ailleurs est faux, enfin voilà, pour moi c'est une arnaque de A à Z ce truc-là, mais ils veulent l'étendre en matière criminelle. Et du coup, effectivement, il y a un phénomène de contestation. Il y a la grève qui a été votée dans la plupart des barreaux de France. Et un des modes d'action qui existe, c'est de faire ce qu'on appelle des défenses massives, que nous, on a fait en comparution immédiate à Bobigny jeudi dernier. Donc ça consiste à, au lieu, on va dire, de s'adapter à la routine des comparutions immédiates, parce que quand on est de permanence, t'arrives le matin à 9h, t'as 5 dossiers, tu vois toutes les personnes incarcérées au dépôt, enfin retenues au dépôt, tu plaides à 13h, tu sors à 2h, et c'est... Encore une fois, hein, c'est pour ça que moi je dis à la fois, on voit comment est-ce qu'en période de crise, la démocratie révèle son vrai visage, mais même au quotidien, les comparutions immédiates, c'est hallucinant, enfin, c'est abominable, quoi, c'est absurde. Enfin, ça sert même, je veux dire, il y a un avocat, mais c'est pour donner la forme d'une justice avec des principes, avec des droits, etc. Mais c'est atroce. Donc bon, là, l'idée, c'est à la fois, évidemment, d'entraver le fonctionnement de la justice, parce que c'est très long, mais c'est aussi d'essayer de le faire avec un contenu. Donc, de plaider à 5, 6, 7, 8 pour une personne et d'utiliser tous les droits qui sont formellement accordés aux personnes qui se retrouvent dans cette situation, qui ne sont évidemment jamais utilisés, puisqu'en fait, il n'y a pas le temps, c'est pas possible, etc. Donc, on soulève 40 nullités. On dépose des questions prioritaires de constitutionnalité sur, par exemple, on a contesté le principe de la comparution immédiate en expliquant que c'était inconstitutionnel. Donc ça, vous plaidez ça pendant 40 minutes. Vous soulevez des nullités qui sont par ailleurs fondées, hein, de dire les conditions de rétention au dépôt, elles sont indignes. Donc c'est pas possible de juger quelqu'un dans ces conditions-là. Donc vous plaidez ça comme nullité du dossier et vous essayez en même temps de développer un discours sur ce que c'est que la réalité sociale de la justice en France, quoi.
Donc là, c'est de la propagande par le fait, comme dirait l'autre, d'une certaine manière, de ce que vous appelez. Est-ce que les gars ou les femmes, vous avez défendu jeudi, ont eu un meilleur sort par votre défense ou pas ?
Ça dépend. Pas pire. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas pire. Et que de toute façon, encore une fois, c'est comme dans tout. Un autre exemple de ce qu'on avait fait qui était intéressant, c'était on a fait ce truc-là, mais pour le coup, vraiment avec le CAGE, il n'y avait pas de mouvement national. Et j'en parle dans le livre, on a fait ça en juillet. 2025, juillet dernier, quoi, au moment où il y avait l'adoption du projet de loi porté par Retailleau sur l'allongement à 210 jours des délais de rétention en centre de rétention administrative. Donc je sais pas si ça vous parle tous, mais c'est le moment où Retailleau s'était servi du meurtre horrible de la jeune Philippine par un étranger, etc. Et s'était servi de ça pour dire il faut un projet de loi pour les étrangers dits dangereux, cela faut qu'on puisse les retenir 210 jours, donc le truc atroce évidemment. Et on avait fait, le jour où le projet était examiné, une défense massive où on avait plaidé devant ce qu'on appelle le juge des libertés de la détention. Donc c'est le juge qui décide si les personnes en CRA sont prolongées ou pas. Donc c'est vraiment le pire du pire du pire. C'est encore pire que les comparutions immédiates, parce que c'est des étrangers, c'est horrible. Et on avait fait une défense massive. Et là, on avait obtenu un très bon résultat judiciaire. Donc en fait, la quasi-totalité des personnes qu'on avait défendues sont sorties, alors que normalement, personne ne sort. Mais même ça, je pense que c'est pas la seule question du résultat judiciaire, parce que le problème, c'est que à partir du moment où on débat de la possibilité légale de les maintenir 210 jours, la réalité, c'est que la situation, elle va être dramatique pour tout le monde si on n'a pas des outils pour s'affronter politiquement à cette loi-là. Donc, on peut discuter d'un individu, mais si demain, tout le monde doit rester 210 jours en centre de rétention, le problème, c'est qu'au bout du bout, tout le monde est objectivement perdant, quoi. Et donc, oui, on peut obtenir des résultats judiciaires satisfaisants, mais que la question... Ça ne peut pas être le seul critère, en fait, quand on construit une mobilisation politique dans les tribunaux, parce que sinon, on est condamné à ne jamais se battre radicalement, en fait, pour des dispositions qui vont pourtant affecter les conditions de vie de l'immense majorité de la population, quoi.
Petit point d'actualité à nouveau, et après, on se quitte. La ville de Saint-Denis, dont vous êtes maintenant élu, vous êtes donc au conseil municipal. Est-ce qu'on doit vous mettre dans l'opposition ou dans le soutien critique de la majorité, c'est-à-dire LFI de Bali Bakayoko?
Moi, je suis dans l'opposition, oui.
Vous êtes dans l'opposition. Et donc là, par exemple, il y a eu la question du...
Nous, on ne serait pas présentés. Sinon, on aurait fait la même liste.
Alors, par exemple, sur une question qui nous tient ici à cœur, qui est celle de l'armement ou du désarmement de la police municipale, la première décision du maire, une fois élu, c'est de dire on va retirer la dotation en LBD de la police municipale. Vous, vous dites encore un effort, camarade.
Bah, moi, je dis qu'on soutient évidemment cette disposition et qu'on se tient prêt à la défendre contre la droite, l'État, qui voudra s'y opposer. Et que de ce point de vue, on considère que bien sûr, il faut la défendre. Et c'est ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'être invitée sur des plateaux avec des chroniqueurs hystériques qui nous expliquaient que ça allait être le chaos. Mais je dis aussi que le problème... C'est que, en fait, il faut voir, parce que le risque, c'est celle de la mesure symbolique, quoi. Le risque, c'est celle de, en réalité, face à la pression de l'État, du régime, etc., de pas aller au bout de cette disposition-là, puisque, en réalité, nous, ce qu'on a dit pendant toute la campagne, c'est qu'à Saint-Denis, avant 2020, la police n'était pas armée. Et que ce qu'a fait Mathieu Hanotin, c'est pas juste des LBD, c'est des chiens, des motos et des 9 mm. Et que la réalité, c'est... Pour moi, une disposition cohérente, elle consisterait à leur retirer tous les outils qu'il leur a donnés. Ça n'a rien de quelque chose... C'est même pas une mesure révolutionnaire. Hein. Nous, on a un autre programme sur la police. On ne se limite pas du tout à ça. On pense qu'il faut dissoudre les corps spéciaux. Et on pense que dans une société égalitaire, il n'y aurait pas de police. Mais je veux dire, même sur un terrain plus minimal, avant 2020, la police n'avait rien de tout ça. Donc moi, je pense qu'évidemment... Il faut aller au bout de cette disposition-là parce que il faut aller au bout de cette disposition-là parce que la réalité, c'est que sinon, pour moi, il y a une adaptation au paradigme sécuritaire qui consiste à nous expliquer qu'en réalité, face aux phénomènes de violence qui peuvent exister dans tout un tas de quartiers, etc., il faut une réponse policière et sécuritaire, et c'est la même discussion qui existe depuis les années 80, qu'il faut augmenter les moyens de la police, etc., alors que vous regardez, vous lisez Paul Rocher, il vous montre que c'est des idées reçues totales, que le seul secteur de l'État dont le budget a augmenté de manière constante, c'est évidemment la police, et qu'elle ne manque pas de moyens, et que s'il y a de plus en plus de phénomènes de violence sociale, etc., c'est parce qu'il y a plus de précarité, il y a plus de chômage, il y a un manque de perspective totale pour la jeunesse, etc., et qu'il faut apporter des réponses sociales et sanitaires d'ordre de santé publique à des phénomènes qui le sont, et pas des réponses policières et sécuritaires, même s'il y a un rouleau compresseur qui va dans ce sens. Et sur l'armement de la police municipale, pour moi, c'est le symptôme de ça. Enfin, je veux dire, de base, l'armement de la police municipale, c'est une revendication du RN. Hein. Enfin, je veux dire, ça n'a rien d'une évidence. Et le fait qu'on nous le présente aujourd'hui comme une évidence totale et que tout le monde s'y adapte, la France Insoumise, nationalement, au début, ils ont fait campagne sur le désarmement de la police municipale. Et puis après, localement, ça n'existait plus nulle part. Hein. Ça n'existait plus à Roubaix, ça n'existait plus à Saint-Denis, ça n'existait nulle part. Et donc aujourd'hui, on nous dit on enlève les LBD. Ça va, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça reste, à mon avis, faible par rapport à la réalité de ce que c'est et au fait que pour moi, il ne faut pas avoir peur de dire la réalité, la vérité aux gens. Et que la vérité aux gens, c'est que c'est faux de leur dire qu'en mettant plus de policiers, plus de LBD, plus de 9 mm, on va résoudre des problèmes sociaux qui existent dans des quartiers populaires. Quoi.
Deux questions rituelles pour terminer. D'abord, est-ce que vous avez un conseil culturel? Ça peut être un vieux machin, ça peut être un disque, un film, une pièce de théâtre, une série, ce que vous voulez, voilà, qui vous a dernièrement plu.
Bonne question, il y en a plein. Bah, je peux, là, comme ça, un film, je dirais d'aller voir Punishment Park, qui est un film qui permet de discuter des tribunaux d'exception, de la répression de la contestation et des luttes anti-impérialistes aux États-Unis dans les années 70.
C'est ça, absolument. Et enfin, la dernière question, qu'avons-nous fait, Elsa Marcel, pendant 1h26 ?
Comment ça ?
Qu'est-ce qu'on a fait ?
Bon, on a parlé. Je ne savais pas qu'il y avait cette question, il faut dire un truc original.
C'est mieux, ouais.
Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, je sais pas. On s'est préparé à avoir moins peur de l'État.
Ah bah, c'est pas mal, parce que la première réponse, c'est... Eh bah, super, merci beaucoup.
Je savais pas qu'il y avait des questions rituelles.
Ah, vous n'êtes pas une opposienne?
Non, mais moi, je suis une vieille génération, en fait, on dirait pas, mais... Mais
ah
moi,
ouais.
Twitch, les réseaux sociaux, tout ça, je maîtrise pas.
Non.
Bah, je m'oblige, parce que quand on fait de la politique, faut s'y mettre, mais je suis une boumeuse, en fait. Voilà, c'est ma confession pour la dernière question rituelle.
Merci beaucoup d'être venu et
d'avoir
pris
invité.
Le temps. Et on aura bien compris que avoir une telle élocution, une telle rapidité, ça permet de défendre des pauvres gens face à une justice extrêmement pressée, extrêmement expéditive.
Bah, c'est ça, ouais.
Et on comprend très bien pourquoi.
Il faut dire peu de choses beaucoup de choses en peu de temps, donc.
Eh ben, je crois que c'est ce que vous avez fait.
Bah, merci.
Merci beaucoup.
Mes amis, nous sommes sur opposte.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est opposte, opposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous à opposte.
J'encourage, faites un don à opposte. Ah non, c'est là la caméra.
Adonnez-vous opposte. Adonnez-vous opposte.
Et faites des dons à opposte. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à opposte. Il faut donner
des
l'argent
dons,
pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, adonnez-vous opposte.fr. Opposte.fr. Adonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir opposte.
Abonnez-vous.
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à opposte et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Opposte.fr, il n'y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient opposte, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à opposte, faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous opposte.fr, opposte.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous opposte.fr.